BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good evening business en direct. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Dans l'actualité, il y a donc ces hausses d'impôts qui pour certains sont devenues incontournables, pour d'autres indispensables, pour d'autres inacceptables, et Michel Barnier qui se retrouve dans une situation inextricable. Voilà, si on résume ça en quelques mots, on va voir ça bien sûr avec Thomas Asportas dans un instant. Un grand patron avec vous dans 10 minutes, Edwige.
Oui, ben c'est le patron de Renex, hein, c'est toutes les bourses européennes ou quasiment toutes. Ben tiens, je lui poserai la question aussi, comment il voit la situation politique en France. Souvenez-vous, il était au cabinet de Strauss-Kahn à Bercy, et puis bien sûr en Europe avec les grandes ambitions de Mario Draghi. Ouais. Puis le, comment faire cette fameuse Europe des capitaux, et puis on parlera de Renex, il y a de nouveau plein de plans, un plan stratégique sous le coude, des acquisitions et du fait que finalement les entreprises, elles se laissent tenter par le private equity, peut-être plus qu'avec la bourse.
Ça aussi c'est un vrai défi, on parle à tout ça à 18h30, on parle aussi de ce rapport pour booster les salaires des classes moyennes, le fameux rapport Bozio-Vasmer qui commence à sortir, et puis alors évidemment ça sera le coup de la soirée. Xavier Niel à 20h30 sur scène à l'Olympia. Voilà.
Amusant, on va voir.
Nouvelle étape, nouveau challenge pour Xavier Niel. Bien sûr, on sera à l'Olympia, puis on racontera tout ça jusqu'à 20h et toute la soirée. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
À tout à l'heure.
Good evening business, le journal.
Donc c'est la grande question, hausse d'impôts, oui ou non. Bonsoir. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Le sujet commence vraiment à envenimer les relations entre Michel Barnier d'un côté, les macronistes et les républicains de l'autre. La preuve, il y a plusieurs réunions qui étaient prévues aujourd'hui avec tous ces acteurs qui ont été reportées carrément, Thomas.
Oui, annulées, effectivement, à la dernière minute. Ce matin, c'est Gabriel Attal, qui est maintenant président à l'Assemblée du groupe Ensemble pour la République, qui devait s'entretenir avec Michel Barnier. Il avait demandé mardi soir à être reçu en urgence aujourd'hui à Matignon pour, je le cite, avoir une visibilité claire sur la ligne politique, notamment sur d'éventuelles hausses d'impôts et sur les grands équilibres gouvernementaux. Le rendez-vous a été annulé. Et dans la foulée, Michel Barnier a expliqué, je le cite, découvrir une situation budgétaire très grave et il demande tous les éléments pour en apprécier l'exacte réalité. Donc des mots quand même très graves employés par le nouveau Premier ministre, très critique aussi du bilan de la majorité sortante. Et il se trouve qu'au même moment, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, était auditionné à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires économiques et vous allez l'entendre, il est sorti de sa réserve habituelle pour dire qu'il ne croit pas une seconde au rétablissement des comptes publics promis par le gouvernement sortant. On l'écoute.
Les objectifs fixés pour 2024 ne seront pas atteints. Nous sommes, il faut le dire d'emblée, devant une situation de finances publiques que je considère comme vraiment inquiétante. Je pense aussi que le budget pour 2025 sera sans doute le plus délicat ou un des plus délicats de la Ve République. Et non, je n'y crois pas. Non, 3% en 2027, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable, j'ajouterai, à ce stade.
Et alors, une fois qu'on a dit ça, toute la question, c'est est-ce qu'il faut, oui ou non, augmenter les impôts pour combler une partie du déficit ? La majorité sortante ne veut pas en entendre parler. Et les Républicains ont réagi dans la foulée et ils ont pris Michel Barnier à son propre piège, en quelque sorte, de la justice fiscale. Ils disent, si ça veut dire soulager ceux qui travaillent et créer de la richesse pour rapprocher le salaire net du salaire brut, c'est une très bonne nouvelle. Autrement dit, pour les LR, la justice fiscale, ça veut dire baisser les impôts. Et les Républicains ont ensuite rappelé qu'une augmentation des impôts pour les Français est une ligne rouge. Et le résultat, c'est qu'une autre réunion prévue ce soir à Matignon entre Michel Barnier et l'état-major des Républicains, elle aussi a été annulée.
Ça fait beaucoup de lignes rouges de tous les côtés en ce moment, voilà, autour de Michel Barnier, qui par ailleurs a toujours beaucoup de mal, forcément. Ceci implique peut-être aussi cela, former son gouvernement.
Les négociations autour de la fiscalité sont au cœur de la composition du gouvernement.
Évidemment, sujet dont on parlera largement avec nos experts ce soir jusqu'à 20h sur BFM Business. Et puis alors un mot pour vous dire, parce que c'est le feuilleton conçu depuis 24h, hein, Thomas, qu'après Matignon hier, les parlementaires Éric Coquerel et Charles Courson ont débarqué ce midi, cette fois à Bercy, pour obtenir les fameuses lettres plafond du budget 2025. Ils en sont ressortis bredouille comme hier, sauf qu'apparemment ça n'a duré qu'une demi-heure, hein. Ça a été encore plus rapide. Mais ça aussi on en parlera bien sûr avec nos experts.
Mais ils auront un document jeudi. Hein. Ils auront un document. Bercy leur a dit qu'ils leur communiqueront un document jeudi.
Ils ont encore fait savoir qu'on était dans l'illégalité en leur remettant pas les lettres au plafond aujourd'hui. Voilà. Donc,
Qui aura des recours au Conseil constitutionnel. Enfin, ça s'envenime de tous les côtés.
Absolument, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Thomas. 18h03 dans l'actualité ce soir. Toujours beaucoup de questions autour du Liban. autour de ces milliers de beepers qui ont explosé simultanément hier dans les poches de membres du Hezbollah. Qui les a produits ? Jusqu'hier, on parlait d'une société taïwanaise qui s'appelle Gold Apollo. C'est désormais d'une société, du côté d'une société hongroise que les regards se tournent. Judith Ralesh.
Le mystère continue de planer. Ce sont des beepers de la marque Gold Apollo qui ont explosé, mais le fabricant nie toute implication. Le dirigeant de l'entreprise accuse BAC, l'un de ses partenaires commerciaux basés à Budapest.
Il ne s'agit pas d'un produit de Gold Apollo, mais d'un produit pour lequel je les ai autorisés à utiliser notre marque.
Une entreprise mystérieuse qui se présentait comme un cabinet de conseil en stratégie sur son site web désormais inaccessible et dont la patronne serait la seule employée. Budapest affirme que l'entreprise hongroise n'est qu'un intermédiaire commercial sans site de production en Hongrie. De son côté, le gouvernement taïwanais a lancé son enquête. Il affirme que Gold Apollo exportait 260 000 beepers du modèle AR924 depuis 2022 sans aucune trace d'exportation directe vers le Liban et que les beepers sont incapables de produire de telles explosions. Le Hezbollah en avait commandé 5000 l'an dernier. Lui qui utilise régulièrement des appareils rudimentaires pour empêcher les renseignements israéliens d'intercepter ses communications. L'organisation affirme que les appareils ont été interceptés à mi-parcours pour y insérer des explosifs et un détonateur.
Régine Ralesh, et puis on a appris tout à l'heure que de nouvelles explosions, cette fois de talkie-walkie de membres du Hezbollah, s'étaient produites dans la banlieue sud de Beyrouth, notamment. Une agence de presse libanaise parle ce soir d'un bilan provisoire de 3 morts et de plusieurs centaines de blessés. Dans l'actualité des entreprises, une bonne nouvelle pour Google en Europe, c'est pas tous les jours. La justice européenne a annulé, figurez-vous, une amende d'1,9 milliard que Bruxelles avait infligée à l'américain. C'était en 2019 pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. Bruxelles aura, cela dit, la possibilité de faire appel de cette décision de justice. Et puis, je vous le disais, ça va être l'événement ce soir du Tout Paris des affaires. Xavier Niel, le patron d'Iliade, sur scène à 20h30 à l'Olympia. Bonsoir Nathan Cocampo, vous êtes devant l'Olympia, on le voit derrière vous, Xavier Niel. Bonsoir. En gros. Comment s'appelle le spectacle ? Ça s'appelle « Comment devenir milliardaire » tout simplement, c'est ça Nathan hein ?
Oui Guillaume, vaste question qui peut faire sourire hein, quand on connaît le caractère bien singulier du patron de Free qui cherche bien souvent à casser les codes. Il n'y a que 53 personnes en France qui peuvent répondre à cette question et un seul va le faire ce soir sur la scène de l'Olympia. C'est ce qu'on pouvait lire sur les sites de vente de billets et justement l'Olympia est complet. 2000 curieux ont pris leur place en quelques heures à des tarifs allant de 2 € à 39,99. Là aussi cela rappelle un certain opérateur téléphonique. Alors on se demande tous quels seront les bons conseils du patron de Free, lui dont la fortune dépasse les 22 milliards d'euros. Xavier Niel n'a pas fait d'études, il débute avec le Minitel Rose à 16 ans, ce qui lui a valu d'ailleurs de faire de la prison, puis il construit un empire. Un empire dans les télécoms, mais aussi avec des investissements dans la presse, l'intelligence artificielle et l'immobilier. On le connaît pour son franc-parler, ses colères aussi parfois. Et justement, le titre de son livre qui paraît la semaine prochaine, le voici, une sacrée envie de foutre le bordel. 300 pages d'entretien avec l'homme politique Jean-Louis Missika, qui se trouve être aussi l'ancien administrateur de Free. Bref, vous l'aurez compris, on va vivre une soirée un peu particulière avec sans doute quelques surprises.
Eh ben sur le papier, c'est vendeur. Merci beaucoup Nathan, puis on vous retrouvera à plusieurs reprises d'ici 20h sur BFM Business avant ce spectacle très attendu, bien sûr. 18h07, on va sur les marchés. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Vous n'êtes pas sur scène, ça viendra un jour. Antoine Larigauderie sur scène. À l'Olympia, hein, je demande à voir.
Oui, si vous voulez. Rien que pour vous.
Alors ne serait-ce que pour moi, je le demande. On va terminer en baisse ce soir à la Bourse de Paris.
Ouais, la prudence hein, avant la décision de la Fed, hein, bien entendu. Oui. 25, 50 points de base. Le débat reste ouvert. Pour l'instant, le CAC 40, lui, baisse de 0,57%. Il perd tout ce qu'il avait gagné hier. On redescend à 7 444 points. L'Euronext Tech Leaders sous-performe d'ailleurs. Le reste du marché perd 0,83%. À noter l'Eurostock 50, moins 0,5%. Francfort, quasi inchangé, moins 0,08%. Il y a le secteur de la défense qui s'est bien rattrapé aujourd'hui. Vous vous souvenez, hein, hier en fin de séance, c'était un petit peu compliqué, notamment pour Thales, mais qui là signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 2,144,90 €. Des valeurs un petit peu traditionnelles, cycliques, hein, qui signent de belles progressions. Carrefour, plus 0,9, 15,56, Bouygues, plus 0,77, 32,60. En revanche, séance un petit peu difficile pour le luxe. C'est LVMH qui signe la plus forte baisse du CAC 40 à moins 1,94, 595,90 €. Puis deux titres en forte hausse à signaler quand même. Atos,
Atos, ça marche encore, mais oui, ils viennent de décrocher un gros contrat et du coup le titre gagne 7,11% à 73 centimes pour des super calculateurs. Puis Ubisoft qui poursuit son redressement, plus 6,5% à 12,61 avec une recommandation positive d'analyste. Le CAC, moins 0,57, 7444 points et l'euro tranquillement au-dessus d'un 11 face au dollar, on est à 1,1121.
Merci beaucoup Antoine, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, c'est la mi-séance sur le marché américain, le Dow Jones qui perd 0,2%, là aussi on attend la fête bien sûr, 41 515 points. L'indice Nasdaq, lui aussi, qui perd 0,3%, très attentiste, 17 570. 18h09, c'est donc Stéphane Boujna, le président du directoire d'Euronext, qui est l'invité d'Eddie Chevrillon. La grande interview arrive dans deux petites minutes. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview où on a invité. Ce soir, c'est Stéphane Boujna, il est président du directoire d'Euronext. Bonsoir Stéphane Boujna.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser, les nouvelles ambitions d'Euronext. Vous venez d'acheter une petite société, mais intéressante, c'est peut-être une diversification pour Euronext. On parlera de la, ça y est, au bout de 3 ans, la fin de l'intégration de la Bourse de Milan, avec les conséquences que ça a. Et puis, de votre nouveau plan stratégique que vous avez, que vous allez lancer le 7 novembre prochain. Mais déjà, quelques petites questions d'actualité sur l'Europe, l'Europe du marché des capitaux. Peut-être aussi une question sur le climat politique français. On va quand même se rappeler que vous avez été à Bercy. Vous étiez, c'était il y a longtemps, je suis d'accord. Mais enfin, je suis sûre que vous restez quand même très au fait de la situation des finances publiques de la France. En plus, ça relie quand même un peu avec votre activité. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans une situation très, très, très compliquée ou pas du tout?
Bon, d'abord, j'étais à Bercy à la fin du siècle dernier. Oui. Et la situation est compliquée. Elle est différente surtout. Nous allons traverser les décisions qu'il faut prendre dans les semaines qui viennent dans un contexte différent de celui qu'on a connu lorsque nous avions des majorités absolues à l'Assemblée ou des majorités plurielles, puisque vous faisiez référence à l'époque où j'avais quelques miettes de responsabilité aux côtés de Dominique Strauss-Kahn. C'est un contexte différent. Mais les problèmes qu'il faut résoudre, ils sont connus. La bonne nouvelle, c'est que on est face au mur et qu'il va falloir les traiter dans un contexte européen où il faut à la fois proposer dans le cadre européen une trajectoire de réduction de nos déficits, mais également un programme de réformes structurelles nécessaires pour rendre cette trajectoire crédible. Et peut-être qu'on parle pas assez sur les médias, en tout cas dans les médias, de ce deuxième volet de nos engagements européens, qui est de présenter des réformes structurelles de nature à rendre crédible la trajectoire de réduction de nos déficits. Et c'est le travail de l'équipe que M. Barnier est en train de constituer.
Essaye de constituer, on va dire ça comme ça. Juste, si je faisais allusion au fait que vous étiez à Bercy, c'est que là, on parle éventuellement d'une hausse des impôts, d'une surtaxe pour les entreprises. Or, vous l'aviez fait avec Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que c'est un contexte différent? Il y avait une très bonne croissance, mais est-ce que ça a été très compliqué à mettre en place?
Écoutez, j'en ai aucun souvenir. D'accord. Je m'occupais pas de fiscalité. C'était il y a vraiment plus d'un quart de siècle.
On va parler là maintenant. On est en plein dedans. C'est avec le grand défi de l'Europe, avec la constitution de cette Commission européenne, avec les aléas que l'on connaît. C'est un des points importants, c'est l'Europe des marchés des capitaux. Cette union. On sait que c'est très difficile à faire. Bruno Le Maire nous a expliqué que c'était essentiel. Là encore, on sait que ça fait partie des recommandations urgentes de Mario Draghi. Mm-hmm. Pourquoi ça coince? Moi, j'ai l'impression que depuis, je suis journaliste depuis le siècle dernier, j'ai l'impression que depuis là, on parle de l'union des marchés des capitaux et on n'y est toujours pas.
Alors,
comment faire?
Il y a une raison structurelle, c'est que quand on a fait le marché unique dans les années 90 avec Jacques Delors, on a exclu du marché unique, explicitement à la demande des États membres, 3 secteurs, les télécoms, l'énergie et le secteur financier. Et ce sont les 3 secteurs les plus en retard. Le secteur de l'énergie est en train de s'intégrer très rapidement du fait de la crise que nous avons connue depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais c'est vrai que sur les 2 autres secteurs, les choses sont restées fragmentées. Il y a eu une tentative, quand les Britanniques étaient encore dans l'Union européenne, sous l'autorité de M. Jonathan Hill, de lancer cette union des marchés de capitaux. Et ça reposait sur quelque chose de très évident, qui est de, à l'époque, faire de Londres la plus grande place financière de l'Union européenne, était quelque chose que tout le monde acceptait, ou une chose à laquelle tout le monde se résignait. Les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne, et donc on est entré dans une phase où l'union des marchés de capitaux a été un projet orphelin.
Qui
n'avait pas de portage politique, oui. Qui n'était pas porté par une vision. Et donc, des éléments un peu baroques ont été produits sous l'autorité de M. Dombrovskis, un ancien Premier ministre letton, de Mme McGuinness, la commissaire irlandaise. Mais on voit bien qu'il n'y avait pas de portage politique et pas de vision. La nouveauté, et vous l'avez souligné, c'est qu'entre le discours de la Sorbonne 2 du président Macron, l'engagement des autorités à Berlin, l'engagement très fort des autorités italiennes, l'engagement très fort des Néerlandais et quelques autres, il y a maintenant une volonté d'aller très vite. Et les deux gros rapports, je dirais les trois, avec le rapport de M. Noyer, le rapport de M. Letta et le rapport de M. Draghi, disent tous la même chose, il faut que l'épargne des Européens finance les fonds propres des entreprises européennes. Et pour ça, il y a des solutions européennes et puis il y a des solutions nationales. Parce que on souligne toujours la nécessité de faire un marché unique européen, mais c'est parce qu'effectivement, les Européens, vous connaissez les ordres de grandeur qui sont très bien rappelés dans le rapport Noyer, il y a à peu près 13% du PIB européen qui est consacré à l'épargne.
Oui.
Mais les Européens exportent leur épargne, essentiellement vers les États-Unis, et importent des États-Unis des fonds propres qui s'investissent dans les entreprises européennes. Et c'est ça qui est un dysfonctionnement. De même que les Européens épargnent beaucoup, mais investissent plutôt leur épargne dans des produits de taux, l'assurance vie très largement, ou des bons du Trésor en Italie, et pas assez dans des fonds propres des entreprises par les actions.
Ouais, ouais.
Et donc, les réponses à cette situation, elles sont à la fois européennes, et c'est un catalogue de mesures qui sont techniques, mais quand même une vision de consolidation des marchés, et puis nationale, pour make equity great again, rendre les actions à nouveau intéressantes comme véhicule d'investissement.
C'est tout votre défi.
Et c'est ça qui doit être fait, notamment sur les ratios prudentiels. Je voudrais dire un mot là-dessus, parce que tout le monde dit, mais il y a autrefois les assureurs et les banques investissaient plus en actions, et puis depuis la grande crise, c'est plus possible. Mm-hmm. Mais c'est vrai que en 2007-2010, le problème macroéconomique qu'il fallait résoudre, c'est qu'il y avait trop de risques dans les portefeuilles. Aujourd'hui, en 2024, le problème macro est rigoureusement l'inverse. Il n'y a pas assez de risques dans les portefeuilles. Et donc, les ratios prudentiels qu'on est en train de mettre en œuvre sont le reflet de préoccupations macro des années 2007-2012 et pas des nécessités de 2024.
On est d'accord, mais donc ça veut dire quoi? Vous dites qu'il faut changer. Il y a beaucoup de banquiers qui appellent à ça et on ne les croit pas. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut changer ces ratios prudentiels.
Mais c'est ce qu'on dit dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux. Oui. Il faut affronter l'inertie au sens physique du terme, c'est-à-dire le fait qu'on applique des mesures qui sont devenus obsolètes. C'est un peu comme la même chose que le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence est figé dans le traité de 1957, mais en 1957, la Chine n'existait pas sur le plan économique mondial. Et donc, organiser la concurrence à l'intérieur de l'Europe, c'était l'horizon ultime. Maintenant, organiser la concurrence sur la planète, c'est une question qui se pose dans des termes différents, mais avec des règles qui ont été figées dans un traité en 1957, comme les ratios prudentiels ont été figés conceptuellement, il y a une vingtaine d'années.
Oui, et le problème, c'est que voilà, c'est nous, le temps qu'on réagisse, qu'on s'adapte à la conjoncture qui change, et tout ça, ça prend des années. Oui, mais ce qui est paradoxal, juste parce que vous avez créé, Ronex, c'est Amsterdam, c'est Lisbonne, c'est Paris, c'est Milan, on en dira un mot évidemment dans un instant, c'est Dublin. Donc, vous avez réussi, à quelques exceptions près, évidemment, vous avez réussi l'Europe des bourses. Pourquoi ? Ce qu'on a réussi à faire sur des bourses, on n'arrive pas à le faire sur des capitaux. Alors, les conséquences sont bien plus importantes, on est bien d'accord. Mais enfin, ça peut paraître paradoxal, non ?
Écoutez, aujourd'hui, effectivement, Euronext, c'est un peu la colonne vertébrale de l'Union des marchés de capitaux. Pour de vrai, puisqu'on a à peu près un quart des actions qui sont échangées en Europe, qui sont échangées sur les marchés intégrés, le marché unique d'Euronext. Je crois que c'est un modèle qui nécessite un engagement très fort des porteurs de projets et des États, et peut-être que dans certains cas, certains États membres sont encore frileux ou réservés, soucieux de réserver une sorte d'identité, de spécificité à ce qu'ils font.
Est-ce que cette consolidation, elle est terminée au niveau européen ?
Non, elle n'est pas terminée. Euronext est un projet ouvert, mais
vous attendez Francfort, quoi.
Non, mais Francfort est une entreprise qui a trois ou quatre fois la taille d'Euronext aujourd'hui. Ouais. Euronext faisait en 2014, quand elle a été introduite en bourse, 1,4 milliard de capitalisation boursière. Alors, aujourd'hui, ça fait 10 milliards, alors que Deutsche Börse est aujourd'hui proche de 40 milliards.
Là, ouais, donc effectivement, le match, il est pas encore en votre faveur. À propos de match, on a le sentiment qu'il y a un peu un match, nous en tout cas on le ressent ici à BFM Business, private equity contre la bourse. Si vous regardez par exemple Sanofi veut céder sa division grand public de Liprane & Co, au départ il disait c'est soit en bourse, soit c'est le private equity. Finalement ça sera le private equity. On a beaucoup d'exemples comme ça. Comment vous l'expliquez ?
La taille du private equity fait que désormais, c'est une option nouvelle qui n'existait pas il y a 20 ans par rapport aux problèmes pour résoudre les problèmes qui autrefois ne pouvaient être solubles que par l'introduction en bourse. C'est une réalité. Je ne pense pas que c'est une question de concurrence. C'est que,
parce que il n'y a plus tellement de grandes introductions en bourse.
Non, les fonds de private equity ont un mandat qui est d'acheter les actifs pour les revendre. C'est leur métier. Ils gagnent leur vie, ils rémunèrent leurs investisseurs en cédant des actifs et en constatant une plus-value qu'ils partagent avec leurs investisseurs et avec eux-mêmes. Mais, in fine, l'horizon est un horizon de cession. La liquidité ultime reste le marché de capital, des capitaux et le marché boursier. Si vous avez comme projet, non pas de vous revendre, de croître pour vous revendre. Mais si vous avez comme projet d'être un acheteur, un consolidateur, de transformer l'industrie, alors l'endroit où vous êtes indépendant et vous pouvez lever du capital, faire des grosses acquisitions transformantes, fusionner, où vous pouvez émettre des instruments financiers, c'est la société cotée. Donc c'est vrai que cette étape peut être plus tardive qu'elle ne l'était il y a 20 ans, mais c'est vrai aussi que cette étape est la seule qui est disponible pour ceux qui veulent véritablement transformer leur industrie.
Oui. Même Xavier Niel s'est retiré de la bourse. On parle des nouvelles ambitions d'Euronext, parce que quand même, d'abord là, vous avez racheté une société, mais surtout, on va parler, c'était il y a 3 ans, vous étiez venu ici, bien sûr, c'était pour le rachat de Milan, la bourse de Milan, ça y est, l'intégration, elle est terminée, mais avec des conséquences très importantes pour l'ensemble d'Euronext.
Oui, vous mentionnez la bourse de Milan. En réalité, le groupe Borsa Italiana est beaucoup plus important que ça,
oui.
Puisque c'est une bourse dans laquelle il y a évidemment la cotation, évidemment la négociation des titres cotés à Milan, mais aussi de la compensation, qu'on appelle en anglais le clearing, et du règlement livraison, ce que faisait autrefois la SICOVAM en France. Et la différence d'échelle qu'a apporté l'acquisition de Borsa Italiana est tout à fait considérable. Comme je vous le disais, on faisait à peu près 400 millions de chiffre d'affaires en 2014-2015 quand je suis arrivé. On fait maintenant 1,5 milliard environ de chiffre d'affaires. La capitalisation boursière, quand je suis arrivé, était autour d'1,8 milliard. Elle est maintenant de plus de 10 milliards.
Et qu'est-ce que ça change pour ceux qui vous écoutent ou qui vous regardent?
Ce que ça change, c'est que nous sommes désormais beaucoup plus intégrés, beaucoup plus diversifiés, et que nous pouvons offrir à nos clients beaucoup plus de services. En 2015, quand Euronext est redevenu une société indépendante, nous n'avions plus de compensation. Ouais. Nous étions clients d'un fournisseur basé à Paris, mais qui appartient au groupe London Stock Exchange, qui fournissait nos services de compensation. Désormais, la compensation des produits échangés sur Euronext est intégralement réalisée dans une société du groupe Euronext qui s'appelle Euronext Clearing. Même chose pour le règlement de livraison et la conservation de titres qui est maintenant intégré. Donc, cette intégration permet d'offrir une série de services à nos clients beaucoup plus diversifiés, beaucoup moins chers que celles qui est proposée par nos investisseurs. Et par exemple, en matière d'énergie, il y a une activité qui s'appelle Nord Pool, qui est une bourse d'échange d'électricité. Nous allons lancer, dans le cadre d'un projet extrêmement important que conduit chez Euronext Camille Bedin, nous allons lancer une série de produits dérivés sur l'électricité dès le début de l'année prochaine. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvions pas faire sans Borsa Italiana et sans notamment les activités de compensation de Borsa Italiana.
Ouais, d'accord. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante.
Transformante, ouais. Le groupe aujourd'hui est non seulement plus gros, plus rentable, plus intégré verticalement, mais il a des capacités de s'engager dans un nouveau plan stratégique beaucoup plus ambitieux que le précédent, avec beaucoup plus de croissance organique, que nous annoncerons d'ailleurs le 8 novembre, mais qui est un plan qui va essayer d'utiliser toutes les ressources que nous avons intégrées. Vous savez, ce projet italien, nous avions annoncé ici, quand la transaction a été réalisée, que nous réaliserions, avant la fin 2024, 60 millions de synergies en relation avec cette opération. Ouais. Nous sommes assez confiants dans notre capacité à réaliser au moins 115 millions de synergies en lien avec cette opération, quasiment le double. Parce que les équipes ont énormément travaillé et qu'il y a eu énormément d'opportunités que nous avons saisies pour mettre notre data center en Italie, pour mettre cette compensation dont on a parlé en Italie. Et donc, les opportunités sont énormes. Maintenant, l'ambition du groupe, de toutes ces nouvelles équipes, c'est l'étape suivante.
Et alors justement, l'étape suivante, là vous venez de faire une petite acquisition, mais peut-être qu'il donne une indication. Vous avez racheté une société d'analyse et de données de marché qui s'appelle Substantive Research. Est-ce que finalement, le nouveau plan stratégique que vous allez annoncer, donc c'est le 8 novembre, hein, pardon, j'avais dit le 7 novembre, le 8 novembre, est-ce que ça veut dire que Euronext, maintenant, ça va être surtout plus de services?
Ben, Euronext, c'est une double diversification qu'on va accélérer. Une diversification des métiers de trading, de négociation. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, la partie action. Oui, mais la partie action aujourd'hui ne représente plus que 15 à 17% du total de l'ensemble. Et on va continuer à faire croître les autres métiers de négociation sur les produits de taux avec MTS, qui est une plateforme de négociation d'essentiellement de bons du trésor des pays de l'OCDE. Les commodities, c'est-à-dire le blé.
Les cryptos. Est-ce que vous allez faire une bourse pour les cryptos?
On va se diversifier dans toutes sortes de classes d'actifs, comme on l'est déjà sur les devises, l'électricité, les commodities de blé, etc. Et à côté de cette première diversification à l'intérieur des métiers de négociation, effectivement, nous allons devenir un acteur beaucoup plus puissant dans les métiers du post-trade, du post-négociation, dans les métiers des services, en ce compris les données, et là vous avez raison de mentionner cette petite acquisition que nous avons réalisée hier, et puis dans les métiers des services aux entreprises. Donc effectivement, il y aura une double diversification et un approfondissement des projets de croissance.
Il y aura deux jambes.
Il y aura deux jambes, là où il y avait autrefois un seul pilier qui était la négociation des actions à Paris, à Amsterdam.
Et votre plan stratégique sera basé là-dessus. Vous n'avez pas répondu, ou peut-être que vous avez lu, je ne sais pas, vous allez me dire ça. Vous avez vu que les Suisses, si on en croit le Financial Times, le Swiss Stock Exchange se lance dans les cryptos, une bourse d'échange pour les cryptos. Est-ce que vous êtes prêt à faire la même chose chez Euronext?
Non.
Non?
Non, il y a des acteurs très puissants sur les cryptos. Nous avons toujours été réservés par rapport à cette classe d'actifs dont la principale fonction est spéculative, ou le transfert de valeur dans des conditions qui sont plus opaques que sur les modes transparents de circulation de l'argent que sont notamment le mode SWIFT. Donc je considère que le ratio entre l'opportunité de marché et le risque de réputation n'est pas bon pour une entreprise comme Euronext.
Risque de réputation.
C'est un risque de réputation et un risque de régulation, parce que, vous savez, on fait quelque chose de très très important depuis plusieurs siècles, et depuis plusieurs dizaines d'années, de mettre en rouge ou en vert un nombre sur un écran, et le reste du monde appelle ça le prix et prend des millions de décisions en conséquence. Les cryptos actifs sont des instruments qui n'ont pas le même cadre de transparence et de régulation, et je pense que ce n'est pas notre rôle de nous engager dans ce terrain que je considère, pour ma part, dangereux.
Ben, au moins, comme ça le mérite d'être clair. Pas question de mettre en danger la réputation d'Euronext. Merci beaucoup, Stéphane Boujenah, d'avoir été avec nous, président du directoire d'Euronext. Et donc, rendez-vous, ça y est, le rendez-vous, il est pris. Le 8 novembre, on se retrouve ici, en studio.
Absolument.
Voilà, merci tout de suite, Guillaume Paul.
BFM Business présente Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, experts BFM.
Allez, 18h35, les experts BFM, première partie jusqu'à 19h, évidemment, pour refaire toute l'actu économique du jour. Edwige Chevrillon est de nouveau avec nous. Rebonsoir, Edwige.
Experte, alors, je suis là.
Il y a de tout.
Bonsoir Emmanuel.
Emmanuel Le Chiffre avec nous également. Bonsoir Emmanuel.
Experte aussi, il n'y a pas de problème.
Experte aussi, économiste de formation.
Mais experte ne me dérange pas. Le féminin ne me dérange pas.
Oui, non, mais ça ne dérange personne, je vous confirme. Beaucoup de choses à voir ensemble. Alors, on parlera Xavier Niel, bien sûr, dans un instant. Ça va être le clou de la soirée. Le tout Paris va aller voir ça, bien sûr, à l'Olympia.
Ah oui, c'est pour ça qu'on y va.
Évidemment. On va d'abord dire un mot. Alors, c'est moins souriant. Je suis d'accord avec vous. La question de ces hausses d'impôts qui nous pendonnaient, la classe politique qui se divise sur le sujet. Au point que, on le disait tout à l'heure avec Thomas Asporta, vous aviez des réunions prévues aujourd'hui entre Michel Barnier, les ténors du bloc Renaissance, les ténors du bloc Républicain. Toutes ces réunions ont été
annulée. Faut-il de nouvelles hausses d'impôts en France? Écoutez ce que disait le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, ce matin sur BFM TV.
La bonne proportion, probablement, c'est que trois quarts de l'effort soit fait par des économies de dépenses. Mais si on doit faire un effort fiscal, je le dis pour probablement environ un quart de l'effort, un quart seulement, hein, j'insiste sur les proportions parce que le débat est parti très fortement depuis hier.
Si sur j'ai bien compris, ça veut dire 5 milliards par an.
De l'ordre de 5 milliards, okay. Ce sera au futur gouvernement et au Parlement de l'apprécier. Et là, je crois qu'il serait très souhaitable de ne pas toucher aux classes moyennes et aux PME, parce que ça augmenterait leur attentisme ou l'incertitude dont nous parlions tout à l'heure. Par contre, il ne faut pas exclure un effort exceptionnel et raisonnable de certaines grandes entreprises ou de certains gros contribuables. Par exemple, tant qu'on n'est pas revenu sous les 3% de déficit. Ça peut être un effort temporaire.
Voilà, François Villeroy de Gallo. Donc lui, il dit les trois quarts de l'effort, ça doit quand même être la dépense. Oui, aux hausses d'impôts, mais les trois quarts de l'effort, ça doit être la dépense.
Toute la difficulté, on le sait bien, on en parle tout le temps ici, c'est de trouver comment faire des économies sur les dépenses. Hein. Alors, on a bien des idées. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à les transmettre. Il faudrait presque, nous aussi, on aille à Bercy faire notre liste plus sérieusement. 5 milliards de hausses d'impôts, ça, c'est acceptable, c'est gérable. Je pense que c'est tout à fait gérable. Intéressant qui dit ça là. Enfin, visiblement, les politiques, hier, on recevait Sylvain Maillard, les politiques, ils ne sont pas forcément sur cette ligne-là, du moins pour certains.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il dit, François Villeroy de Gallo, il dit un effort exceptionnel en matière de hausse d'impôts, alors pour les entreprises, les ménages. Mais il dit, tant qu'on n'est pas revenu en dessous des 3% du produit intérieur brut, ce qui risque quand même de durer quelques années. Et c'est là où je reviens à ce que vous disiez hier soir. Attention au provisoire, au one-shot qui s'installe dans la durée. C'est quand même le piège, Emmanuel, fondamentalement.
Moi, je suis quand même étonné de la désinvolture avec laquelle nos dirigeants, en fait, traitent cette question sans comprendre que pour les Français, les impôts, c'est de la nitroglycérine. Franchement, quand on entend...
Il a dit, il a exclu les classes moyennes,
oui,
les PME.
Oui, mais
hein, donc...
Edwige, alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien...
C'est pour les super riches.
Il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre. Par exemple, c'est quand il dit trois quarts de baisse de dépenses et un quart de hausse d'impôts, tout ce qui concerne par exemple les niches fiscales qui sont considérées comme des dépenses publiques, et donc quand vous réduisez une niche fiscale, vous réduisez la dépense publique. En fait, est-ce que lui considère ça comme des baisses d'impôts, comme des hausses d'impôts, ou est-ce qu'il considère ça comme une baisse des dépenses? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que, vous voyez, quand vous dites hausse d'impôts et que vous maniez dans la même phrase ce que comprennent tous les Français quand on parle de hausse d'impôts, à savoir mon impôt sur le revenu...
Non, la moitié des Français,
Ménage, oui, mais ceux qui payent l'impôt sur le revenu, la moitié des Français, et les entreprises qui comprennent l'impôt sur les sociétés. Et donc là, vous voyez l'effet dévastateur que ça peut avoir, exactement comme quand le Premier ministre a l'air de découvrir que la situation financière est catastrophique.
Mais ça, c'est de cette bonne guerre.
Moi, je veux bien...
Mais là, mais dans la politique...
Michel Barnier, il était plus trop aux affaires, mais enfin, il n'a pas pu échapper à tous les rapports de la Cour des comptes, les rappels de la Commission européenne, etc., depuis 25 ans. Donc, on voit bien que, effectivement, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a plein de façons d'augmenter les impôts. Si, par exemple, vous vous attaquez, et encore une fois, on en a parlé plein de fois ici, toutes les dépenses fiscales, les niches qui sont documentées, qui sont inutiles, etc. Si vous allez rogner sur ces niches fiscales, franchement,
rogner sur l'apprentissage,
le quotidien Les Échos, nos confrères des Échos dévoilent ce soir un document interne qui circule au sein du gouvernement, enfin ce qui est constitué pour l'instant, avec quelques pistes bien identifiées. Donc 3 milliards d'euros d'économies sur les aides aux entreprises, coup de rabot sur le CIR à hauteur de 450 millions d'euros.
C'était dans les rapports du CAE. Oui.
Voilà. Économie sur l'émission des chambres de commerce et d'industrie, c'est vrai qu'on entendait parler. Les chambres d'artisanat, 700 millions. Voyez, les taux réduits de TVA aussi, dont
alors,
on a beaucoup parlé.
Typiquement, c'est de la bombe. C'est-à-dire
ça, c'est de la bombe.
Et manifestement, dans ce qu'a dit François Villeroy de Gallo, il y a quelque chose, puisqu'il dit on va peut-être demander un effort aux industries qui utilisent des hydrocarbures, etc.
Oui, les
si
assises,
c'est pour supprimer la TVA réduite sur le GNR et qui va mettre dans la rue les agriculteurs,
les artisans du bâtiment, etc. Déjà sur leur tracteur.
Donc attention.
Oui. Non, moi, de ce point de vue-là, je pense que toucher au taux de TVA, ça me paraît extrêmement difficile dans le contexte actuel. Alors, il y a quand même la liste, Emmanuel vient de la rappeler, vous l'avez rappelé, on peut quand même y arriver, en tous les cas, au moins pour franchir ce budget 2025. Parce qu'il y a un moment, il faudrait bien qu'on sorte de cette situation, non? Enfin, ça devient, là, maintenant, c'est la Macronie qui ne veut plus aller au gouvernement. Donc, je veux dire, c'est quoi? On va se retrouver avec un gouvernement LR qui représente 45 députés? Non, enfin, c'est pas gérable. Il faudrait bien qu'on sorte de cette situation, de ce tunnel.
Ah, le problème.
Non, mais moi j'aimerais bien, depuis hier, on parle beaucoup des hausses d'impôts. Alors je sais, on résume pas ça en une minute, mais les pistes d'économie sérieuses dans la dépense publique. Oui, mais là vous avez des ébauches, j'avais de quoi. Vous m'avez expliqué hier soir qu'en plein milieu du quinquennat et dans la configuration politique actuelle, on ne pouvait pas mettre sur la table la réforme de l'État, du périmètre de l'action de l'État. Voilà. Mais ce que vous dites, ça, c'est quelque chose qu'on doit renvoyer en 2027 à 2025.
Non, mais on peut la faire. Je veux dire,
mais on ne peut pas la faire maintenant.
Elle produira ses fruits. On peut avoir un ministre en charge de la réforme de l'État qui va s'y coller, qui va ouvrir les placards où il y a tous les rapports qui ont été faits. Oui. Et puis s'inspirer de ces rapports, certains sont très intelligents et très bien faits. Et puis après, essayer de mettre en action. Il suffit de demander à Thierry Mandon ou à Guillaume Poitrinal les difficultés qu'ils ont.
Ça fait 30 ans qu'on attend ça.
Mais ça, voilà. Non, mais ce que je veux dire surtout, c'est que ça mettra 5 ans, 10 ans à porter ses fruits.
C'est même pire que ça. Il ne faut, pas espérer que d'un seul coup, on va se décider à aller dans ces réformes. Et d'ailleurs, quand vous regardez finalement ce qui s'est passé dans beaucoup de grands pays,
à court terme,
ça s'est passé. Dans la contrainte, ça s'est passé parce qu'il y avait la crise. Tous les pays, comme prenez le Canada, la Suède, qui ont réussi finalement à rationaliser leurs dépenses publiques, ça a souvent été parce que la situation était catastrophique. Il y a pas de pays qui a réussi comme ça, dans la joie et la bonne humeur, à se transformer d'un seul coup de cigale en fourmi. Donc, la réalité, c'est que c'est très compliqué d'envisager une réduction des dépenses.
Le temps politique ne le permet pas, sauf si vous avez 5 ans devant vous et une majorité, c'est ça qu'il faut comprendre.
Déjà, encore une fois, l'idée de rationaliser, elle devrait. Alors, il faut trouver une méthode qu'on n'a pas aujourd'hui. Moi, je pense que la décentralisation, c'est une méthode. Redonner du pouvoir au niveau local. Une des raisons pour lesquelles on a des excès de dépenses publiques massifs en France, c'est que vous avez trop de niveaux de décision à chaque fois. Et donc, dire qu'il y a trop de fonctionnaires, c'est pas qu'il y a trop de fonctionnaires et des fonctionnaires qui ne font rien.
Ils sont mal redéployés.
C'est qu'en fait, il y en a plein qui font la même chose, etc., etc.
C'est ce qu'a réussi à faire Mario Draghi en Italie, hein, le reste. Où là, c'était dans un système qui était encore plus complexe que le nôtre. Là, c'était pas des millefeuilles, je sais pas comment ça se dit en Italie, mais enfin, c'était en italien, c'était extrêmement complexe. Et là, lui, il a réussi, il a un peu cassé, justement, toutes les structures pour en reconstruire. Et finalement, avec un petit peu de bruit, mais sans trop de bruit.
Écoutons Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, qui est un peu sorti de sa réserve ce matin, qui a dit lors d'une audition au Parlement qu'il met ramener les déficits à 5,1% du PIB à la fin de cette année. J'y crois pas. Et les 3% en 2027, j'y crois pas. Non seulement j'y crois pas, mais c'est pas souhaitable. Écoutez ce qu'il disait ce matin.
Les objectifs fixés pour 2024 ne seront pas atteints. Nous sommes, il faut le dire d'emblée, devant une situation de finances publiques que je considère comme vraiment inquiétante. Je pense aussi que le budget pour 2025 sera sans doute le plus délicat ou un des plus délicats de la Ve République. Et non, je n'y crois pas. Non, 3% en 2027, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable, j'ajouterais, à ce stade.
Rarement sorti de sa réserve à ce point, quand même, Pierre Moscovici. Là,
oui, là, de ce point de vue-là, il a raison. Moi, mais il est pris dans le plat. Donc, moi, la franchise de Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes. La seule chose. Alors, quand il dit ce n'est pas souhaitable, moi, j'aurais bien voulu avoir la phrase d'après, en disant ce n'est pas souhaitable. Pourquoi ?
Pour casser la croissance. Par peur de casser la croissance.
Oui, c'est ça. Souhaitable.
Il a compris comme ça.
Il dit ce n'est pas faisable, c'est le pas souhaitable. Mais Emmanuel, après peut-être des explications.
Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, vouloir tenir absolument l'objectif des 3%, c'est imposer au pays... une cure d'austérité qui serait effectivement difficile à supporter. Et comme à chaque fois, ça se passe par des mouvements d'impôts plus que par des mouvements d'économie. De dépenses. Parce que, en fait, quand vous regardez la trajectoire des finances publiques françaises depuis qu'on a plus fait d'excédent, c'est-à-dire depuis 1974, vous avez une trajectoire des dépenses qui est finalement à peu près rectiligne, c'est une espèce de droite légèrement ascendante au fil des années, et qu'effectivement, alors que ça devrait être la préoccupation, la maîtrise des dépenses, on ne joue que par les recettes et que par les impôts. C'est-à-dire qu'avec des gouvernements qui tantôt les ont augmentés, tantôt les ont baissés, avec plus ou moins de succès, mais c'est vrai que on n'a jamais été voir au cœur de la machine étatique.
Et l'augmentation des dépenses a toujours été constante, même un peu plus en croissance. Et effectivement, Bruno Le Maire disait, nous, on a réussi à stabiliser cette croissance. Et ce n'est pas à stabiliser le niveau des dépenses publiques, c'est stabiliser la croissance des dépenses publiques.
En fait, il y a trois explications à la situation catastrophique de nos finances publiques et plus catastrophique que les autres. La première, c'est effectivement qu'on a quand même un peu tué notre base productive avec un modèle social très généreux, mais en plus financé,
mais insuffisamment financé,
massivement, oui, sur le travail et sur les entreprises. Il ne faut pas chercher plus loin les causes de la désindustrialisation ni des années de chômage massif. Donc ça, ça a été quand même un phénomène majeur. Il y a aussi le fait qu'on n'a jamais su tailler dans nos dépenses. Et puis, il y a le fait qu'à chaque fois qu'on a eu des crises, quand vous regardez les grands bonds de la dette publique, 2008, après le Covid, on a toujours dépenser plus que les autres pour maintenir notre économie à flot.
Et c'était le cas pendant le Covid aussi, notamment. Bien, donc au milieu de tout ça, Michel Barnier n'a pas vu les élus Renaissance ce matin et ne verra pas les élus Les Républicains ce soir. L'autre événement ce soir, ça c'est plus attrayant, et j'accueille Mathieu Pechberti qui nous rejoint pour en parler. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
L'autre événement, c'est ce soir 20h30 à l'Olympia, Xavier Niel qui va faire son show sur scène avant la sortie de son bouquin la semaine prochaine. Bonsoir Nathan Cocampo, vous êtes devant l'Olympia. Comment ça s'appelle ce spectacle ? Comment devenir milliardaire ? Bonsoir. En toute simplicité, Nathan.
Oui, vaste question qui peut faire sourire quand on connaît le caractère bien singulier du patron de Free, qui cherche souvent à casser les codes. Il n'y a que 53 personnes en France qui peuvent répondre à cette question, et un seul va le faire ce soir sur la scène de l'Olympia. C'est ce qu'on pouvait lire sur les sites de vente de billets, et justement, l'Olympia est complet. 2000 curieux ont pris leur place en quelques heures à des tarifs compris entre 2 euros et 39,99, ça rappelle là aussi un certain opérateur téléphonique. Alors on se demande tous quel conseil, qu'est-ce que va nous dire Xavier Niel ce soir, lui dont la fortune dépasse les 22 milliards d'euros. Xavier Niel n'a pas fait d'études, il a débuté avec le Minitel Rose à 16 ans, ce qui lui a valu d'aller en prison. Puis il construit un empire autour des télécoms bien sûr, mais aussi avec des investissements dans l'immobilier, l'intelligence artificielle, la presse. On le connaît pour son franc-parler, on le connaît aussi parfois pour ses colères. Et justement, le titre de son livre qui paraît la semaine prochaine, le voici, « Une sacrée envie de foutre le bordel ». 300 pages d'entretien avec l'homme politique Jean-Louis Missika, qui se trouve être aussi l'ancien administrateur de Free. Bref, vous l'aurez compris, on va vivre une belle soirée, je pense, avec sans doute quelques surprises.
Sur le papier, c'est assez vendeur. Merci beaucoup Nathan, on vous retrouve d'ici 20h à plusieurs reprises, évidemment, devant l'Olympia. C'est quoi ? C'est un petit plaisir de milliardaire ? C'est quoi, Edwige ?
Ah oui, je pense qu'il se fait. De toute manière, on est complètement
dans la... J'aurais voulu être un artiste.
Oui, voilà, c'est peut-être ça. Mais très riche, un artiste. Ouais. Non, mais ça serait intéressant de savoir si lui, il est pour une hausse d'impôts aussi, il va en parler. Du reste, ça va être...
Il peut pas dire non.
Ça sera ça intéressant. Enfin, lui, de toute manière, il verra pas la différence. Ouais. Mais plus sérieusement, je pense que c'est... Oui, je pense que c'est sa vraie nature, en fait. C'est un showman. On voit bien quand il présente sa nouvelle box.
Ouais.
Il fait un super show, quoi. Il fait un petit peu comme l'ex-patron fondateur d'Apple. Vous voyez, il
comme Steve Jobs le faisait, oui, bien sûr.
Oui, Steve Jobs, il faisait ça remarquablement. Oui, il s'inscrit un peu là-dedans. Là, ce qui est plus frappant, c'est les thèmes, parce qu'on ne parle pas de sa freebox, là. C'est comment devenir milliardaire et comment je vais foutre le bordel. Donc, c'est là où on est vraiment.
Est-ce que ce sera diffusé, retransmis quelque part ou pas ?
Non, mais je peux l'enregistrer.
On va aller voir.
Moi, il y a une question qui me taraude.
Je sais pas si on pourrait lui poser des questions.
Moi, le seul exercice équivalent avec lequel on peut comparer ce que va faire Xavier Niel ce soir, c'est ce que faisait Bernard Tapie dans les années 80. Oui. Moi, j'ai vu Bernard Tapie dans les années 80.
On y était, Emmanuel.
Et j'aurais aimé...
Quand il faisait de la télé, quand il faisait...
Je me rappelle de Bernard Tapie au Palais des Congrès, qui faisait des conférences sur le business, sur l'entrepreneuriat, etc. Je peux vous dire que quand vous sortiez de là, vous aviez qu'une envie, c'est-à-dire qu'il vous aurait demandé de vous engager dans l'armée, vous vous seriez engagé dans l'armée. Et donc, j'aimerais voir si Xavier Niel peut rivaliser en termes de charisme et de côté bête de scène avec
Où est-ce qu'il se situe ?
C'est un Xavier Niel qui se lâche de plus en plus, là, Mathieu, aujourd'hui.
Moi, je trouve que ça fait quand même longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, parce que Xavier Niel, dans les années 2000,
la première fois, quand même.
C'était celui qu'on appelait le Trubillon, quand il a lancé le mobile en 2012, voilà, c'était... Et puis après, il y a eu plusieurs années pendant lesquelles il s'est quand même pas mal calmé, on le voyait moins sur les plateaux télé, puis là, depuis un an, il est quand même très énervé, il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, il fait des commentaires, il attaque ses concurrents, il fait des vannes, et puis là... le titre du bouquin, Une sacrée envie de foutre le bordel, on sent que, voilà, à 57 ans, là, il n'a pas du tout envie de s'embourgeoiser ou de s'empâter. Bon, et puis, il faut évidemment pas être dupe, c'est quand même le gros coup de com'.
Xavier Niel,
il est. Non, mais son livre, peut-être qu'il s'embête pas, mais il est aussi dans une dimension maintenant, il n'est plus qu'entrepreneur, il est...
Le pitch, c'est un enfant de Créteil qui n'a pas fait d'études, qui a fait de la prison et qui est devenu milliardaire.
Voilà. Mais ça, on le sait, ça.
Oui, oui.
Mais... ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il fait
des...
C'est l'âge de raison, voilà.
Il fait des gros coups de com' à chaque fois, et à chaque fois, nous... on pédale et on court derrière, et voilà, tant mieux pour lui. Bah, c'est le roi pour faire ça. Et en plus, il est quand même dans un moment où son business télécom, en tout cas, le reste, on peut en discuter.
Oh, bah, tu vois, c'est les affaires immobilières,
mais Free, ça marche hyper bien. C'est-à-dire qu'en fait, en France, Free, ça fait 10% de croissance, là où SFR est en train de se casser la figure, Bouygues serre les boulons, et Orange aussi. Et donc, il y a aussi ça qui le porte. Il achète beaucoup d'opérateurs télécoms dans le monde, beaucoup en Europe, en Amérique latine en ce moment. Enfin, voilà, il a une faim qui n'est pas du tout rassasiée. Il s'est pris quand même quelques portes hein, dans les télécoms, aussi dans les médias, où il a essayé de racheter des, notamment M6 par deux fois. Mais voilà, le bonhomme s'arrête jamais. On croyait que c'était un peu embourgeoisé. Eh bien, en tout cas, il veut montrer que non. Voilà, même s'il est devenu très riche et très bourgeois.
Il a donné son 06 à Michel Barnier, ça
fait. Bah, tout le monde l'a, son 06.
Il est ministre de l'économie. Ah non.
Il sera peut-être ministre la semaine prochaine.
Il est beaucoup plus puissant en faisant un show à l'Olympia ou je sais pas ce qu'il va raconter, mais bon, que en étant.
Il investit dans toutes les boîtes de la tech qui marchent bien.
La prod, les contenus, la prod.
Dans l'immobilier, il a 8 ou 10 des plus beaux hôtels particuliers de la capitale. Il a racheté aussi des tours, des bureaux, le 55e étage de la tour Montparnasse. Il veut racheter celui d'en dessous. Enfin, voilà.
On verra si c'est du calibre de Bernard Tapie. C'était quand même autre. Bernard Tapie, c'était quand même.
Non, mais c'est intéressant. Alors...
Il a réussi, Xavier Niel, quand même. Hein.
Oui.
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a réussi, ce qui n'était pas le cas de Bernard Tapie.
Sur scène.
Non, il ne sera jamais Bernard Tapie en termes de.
Non, mais ce que je veux dire, c'était dans le côté inspirant.
Qu'on pouvait
dire ça. Après, le paradoxe, c'est que par définition, c'est un cas unique.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un cas qui ne...
C'est un mélange, en fait.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est absurde d'aller s'inspirer de quelqu'un dont on sait que l'histoire n'est quasiment pas reproductible et dont l'histoire est unique. Alors, effectivement, oui, c'est la belle success story. Mais quelle généralité il va en tirer, c'est assez intéressant de voir. Est-ce que moi j'ai hâte de voir les avis des gens qui vont sortir et qui quelles leçons il va en tirer.
S'arrête parce que c'est surtout juste.
Oui, allez-y.
Les milliardaires en général, si on prend son beau-père Bernard Arnault.
Oui.
Je vois qu'il y a écrit Xavier Niel va faire le show chez Bolloré, Vincent Bolloré. Ils sont tous, enfin, on les voit pas du tout. Enfin, c'est-à-dire toute sortie est très contrôlée, le moindre message là, etc. Lui, là, c'est freestyle.
Parce que le Loapia appartient à Canal+, on va le rappeler, voilà. Bah,
voilà, exactement. Et non, mais c'est vrai que depuis 20 ans, c'est le seul entrepreneur qui a vraiment explosé, qui a cette dimension-là, et qui remplit une salle, parce qu'il a des fans, c'est tout. Alors, ils sont pas des millions, mais il a rempli l'Olympia en quelques heures.
Ça sera donc à 20h30 ce soir à l'Olympia et c'est complet, 18h53, vu sur le web. Comme tous les soirs, on donne un coup d'éclairage à un article de bfmbusiness.com. C'est Paul Louis qui est avec nous. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Bienvenue. Alors pour répondre à une question que vous posez peut-être tous depuis quelques heures, faites-vous partie de ces contribuables les plus aisés, dixit Michel Barnier, qui vont passer à la caisse pour la bonne cause? Il se trouve, Paul, que bfmbusiness.com, tenez-vous bien, a mis au point un calculateur à consulter en ligne pour se tester. C'est ça l'idée.
Oui, ce calculateur, il a été réalisé donc par Olivier Chichporti chez Teofil Magoria. Donc vous pouvez y accéder en flashant normalement le QR code
qui va apparaître
sur votre écran. Ouais. Ensuite, pour l'utiliser, c'est très simple. Vous rentrez votre revenu fiscal et vous pouvez voir quelle proportion de contribuables paye plus ou moins d'impôts que vous. D'impôts sur le revenu, bien sûr. Ce qu'on peut dire, en tout cas, à partir de cet outil qui s'appuie sur les dernières données de la Direction Générale des Finances Publiques, c'est qu'en 2022, sur près de 41 millions de foyers fiscaux, il y en a un peu moins de 45% qui ont payé l'impôt sur le revenu. C'est une proportion qui a très peu évolué ces derniers temps. Mais il faut rappeler quand même qu'en 1980, on était à 65% de foyers imposés. Alors forcément, cette concentration de l'impôt sur le revenu, elle fait peser l'effort sur les hauts revenus et notamment les 10% des contribuables les plus aisés qui, eux, ont payé les trois quarts du montant global de l'impôt sur le revenu en 2022.
Et alors, est-ce qu'on sait quel niveau d'impôt les foyers les plus aisés ont payé exactement?
Parce que c'est pour ces fameux 10% de contribuables les plus aisés, on était à un peu plus de 15 300 euros d'impôt sur le revenu en moyenne en 2022. C'est environ 15% de leur revenu fiscal de référence. Si on prend les 1% des foyers les plus riches, là, on arrive à un impôt moyen de 68 250 euros. À titre de comparaison, si on prend l'ensemble des foyers imposés, là, on atteint un impôt moyen de 4 663 euros en moyenne. Je précise juste que ces montants, ils tiennent compte des réductions et crédits d'impôt. Pour les 10% des foyers les plus riches, on était à peu près à 2 200 euros de crédits et réductions d'impôt en 2022.
Eh ben voilà, oui, Manuel.
Alors, ce qui est probable, compte tenu de ce qu'on peut savoir, c'est que ce qu'on entend à Matignon par les contribuables les plus aisés, on est plutôt sur la tranche aujourd'hui de ceux qui payent un impôt marginal à 41%, ce qui représente à peu près 82 000 euros de revenus annuels. Ça représente 1% à peu près des assujettis à l'impôt sur le revenu.
Bon.
Mais si vous êtes déjà dans la tranche à 41%.
Ah oui, là, évidemment, oui.
Ça sent pas très bon.
Ça
a passé à 45.
Oui, comme ça, évidemment.
On va aller voir Xavier Niel.
Alors, déjà, vous allez demander à Xavier Niel ce soir. Oui, on serait curieux de savoir s'il fait partie de ce fameux 1%. Et puis, le petit QR code pour aller vous tester sur le super calculateur de BFM Business.
Tiens, je vais le prendre.
Oui, merci. Rassurez-vous pour passer une bonne soirée. Merci beaucoup, Paul. Merci infiniment d'être passé nous voir. On retrouve cet article sur bfmbusiness.com, comme bien d'autres, évidemment. 18h56. Merci à tous, Mathieu Pechberti.
Merci.
Emmanuel Lechypre, Edwige, on se retrouve demain, 18h10.
Ouais. Le patron du LEM, vous savez, ces entreprises de médicaments, c'est le patron de Merck France. Demain, il fait conférence de presse, il viendra juste après pour nous expliquer qu'est-ce que tous les labos ils attendent de Michel Barnier. Ils ont visiblement une liste de doléances longue comme ça. Puis surtout, rappelez-vous, il y a un PLFSS. Hein. On parle du budget 2025. Mais il y a un PLFSS qu'il faut bien préparer. Là, ça va être un peu compliqué. Il y avait des négos avant, mais tout tombe à l'eau. Donc, il faut tout renégocier.
Avec ces questions de souveraineté médicamenteuse, évidemment. Gros sujet. Absolument. 18h10 demain. Merci beaucoup. 18h57, nous revient dans un instant. Le journal, on va reparler un petit peu de ces hausses d'impôts qui cristallise les tensions au sein de la classe politique et puis plein d'autres sujets. Puis nos experts qui reviennent à 19h15, bien sûr. Et jusqu'à 20h en direct. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est toujours en direct dans l'actualité ce soir, bien sûr. Il y a ces hausses d'impôts dont on nous parle de plus en plus, qui pour certains sont devenues indispensables, pour certaines inacceptables. Et au milieu de tout ça, vous avez Michel Barnier qui doit résoudre une équation absolument inextricable. On verra ça avec Thomas Asportas dans un instant. Dans l'actualité ce soir, on parle de ce rapport, ça y est, qui commence à filtrer. Rapport pour booster les salaires de la classe moyenne, le fameux rapport Bozio-Vasmer. Ça aussi, on en parlera avec nos experts. Et puis alors, le clou de la soirée, mais ça, on monte en puissance, comme on dit sur BFM Business. Xavier Niel, ce soir, à l'Olympia, sur scène pour un one-shot. Un grand spectacle intitulé « Comment devenir milliardaire ?» On retrouvera Nathan Cocampo qui est sur place évidemment pour BFM Business. Voilà les grands titres ce soir. On parle de tout ça avec nos experts dans un quart d'heure. Qui seront-ils ? Le communicant Cyril Lachèvre, le prof à Sciences Po Julien Damon et l'économiste atterré Benjamin Coria. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Donc, hausse d'impôts, oui ou non ? Bonsoir Thomas. Apparemment, le sujet commence à envenimer les relations entre Michel Barnier d'un côté, les macronistes, les LR. Il y a d'ailleurs eu plusieurs réunions prévues aujourd'hui entre tout le monde qui ont été tout simplement annulées, Thomas. C'est ça, hein ?
Annulées, effectivement, à la dernière minute. Ce matin, c'est Gabriel Attal, qui est maintenant président à l'Assemblée du groupe Ensemble pour la République, qui devait s'entretenir avec Michel Barnier. Il avait demandé, mardi soir, à être reçu en urgence aujourd'hui à Matignon pour, je le cite, « avoir une visibilité claire sur la ligne politique, notamment sur d'éventuelles hausses d'impôts et sur les grands équilibres gouvernementaux ». Le rendez-vous a été annulé. Et dans la foulée, Michel Barnier a expliqué, je le cite, « découvrir une situation budgétaire très grave et il demande tous les éléments pour en apprécier l'exacte réalité ». Donc des mots quand même très graves employés par le nouveau Premier ministre, très critiques aussi du bilan de la majorité sortante. Et il se trouve qu'au même moment, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, était auditionné à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires économiques. Et vous allez l'entendre, il est sorti de sa réserve habituelle pour dire qu'il ne croit pas une seconde au rétablissement des comptes publics promis par le gouvernement sortant. On l'écoute.
Les objectifs fixés pour 2024 ne seront pas atteints. Nous sommes, il faut le dire d'emblée, devant une situation de finances publiques que je considère comme vraiment inquiétante. Je pense aussi que le budget pour 2025 sera sans doute le plus délicat ou un des plus délicats de la Ve République. Et non, je n'y crois pas. Non, 3% en 2027, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable, j'ajouterais, à ce stade.
Et alors, une fois qu'on a dit ça, toute la question, c'est est-ce qu'il faut, oui ou non, augmenter les impôts pour combler une partie du déficit ? La majorité sortante ne veut pas en entendre parler. Et les Républicains ont réagi dans la foulée. Et ils ont pris Michel Barnier à son propre piège, en quelque sorte, de la justice fiscale. Ils disent, si ça veut dire soulager ceux qui travaillent et créer de la richesse pour rapprocher le salaire net du salaire brut, c'est une très bonne nouvelle. Autrement dit, pour les LR, la justice fiscale, ça veut dire baisser les impôts. Et les Républicains ont ensuite rappelé qu'une augmentation des impôts pour les Français est une ligne rouge. Et le résultat, c'est qu'une autre réunion prévue ce soir à Matignon entre Michel Barnier et l'état-major des Républicains, elle aussi a été annulée.
Ça fait beaucoup de lignes rouges de tous les côtés en ce moment, autour de Michel Barnier, qui par ailleurs a toujours beaucoup de mal, forcément, ceci implique peut-être aussi cela, former son gouvernement.
Les négociations autour la fiscalité sont au cœur de la composition du gouvernement.
Évidemment. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Un mot pour vous dire, parce que c'est le feuilleton qu'on suit aussi depuis 24 heures, qu'après Matignon hier, les parlementaires Éric Coquerel et Charles de Courson ont débarqué ce midi, cette fois à Bercy, pour obtenir les fameuses lettres plafond du budget 2025. Ils en sont sortis bredouilles comme hier, et cette fois ça n'a duré qu'une demi-heure, mais ça aussi on en reparlera tout à l'heure avec nos experts. 19h05 dans l'actualité ce soir, toujours beaucoup de questions autour du Liban, autour de ces milliers de beepers qui ont explosé hier en même temps dans les poches de membres du Hezbollah. Qui les a produits ? Jusqu'à hier, on parlait d'une société taïwanaise. C'est désormais du côté d'une société hongroise que tous les regards convergent. Régine Ralech.
Le mystère continue de planer. Ce sont des beepers de la marque Gold Apollo qui ont explosé, mais le fabricant nie toute implication. Le dirigeant de l'entreprise accuse BAC, l'un de ses partenaires commerciaux basés à Budapest.
Il ne s'agit pas d'un produit de Gold Apollo, mais d'un produit pour lequel je les ai autorisés à utiliser notre marque.
Une entreprise mystérieuse qui se présentait comme un cabinet de conseil en stratégie sur son site web désormais inaccessible et dont la patronne serait la seule employée. Budapest affirme que l'entreprise hongroise n'est qu'un intermédiaire commercial sans site de production en Hongrie. De son côté, le gouvernement taïwanais a lancé son enquête. Il affirme que Gold Apollo a exporté 260 000 beepers du modèle AR924 depuis 2022 sans aucune trace d'exportation directe vers le Liban et que les beepers sont incapables de produire de telles explosions. Le Hezbollah en avait commandé 5000 l'an dernier. Lui qui utilise régulièrement des appareils rudimentaires pour empêcher les renseignements israéliens d'intercepter ses communications. L'organisation affirme que les appareils ont été interceptés à mi-parcours pour y insérer des explosifs et un détonateur.
Voilà, Régine Ralech avec nous et puis on a par ailleurs appris tout à l'heure que de nouvelles explosions, cette fois de talkie-walkie de membres du Hezbollah, s'étaient produites dans la banlieue sud de Beyrouth notamment. Le ministère libanais de la Santé parle ce soir d'au moins 9 morts et plus de 300 blessés. Dans l'actualité des entreprises, une bonne nouvelle pour Google en Europe, c'est pas tous les jours. Figurez-vous que la justice européenne a annulé une amende d'1,9 milliard que Bruxelles avait infligée à Google en 2019 pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. Bruxelles aura, cela dit, la possibilité de faire appel de cette décision. Et puis en France, Carmat, fabricant de cœurs artificiels, continue de lutter pour sa survie. Le groupe a encore annoncé aujourd'hui une augmentation de capital de 10 millions d'euros. Ça doit lui permettre d'assurer sa survie jusqu'à fin décembre, pas plus. Hélène Cornet.
C'est la troisième augmentation de capital de Carmat cette année. Un nouvel appel au marché qui d'ores et déjà ne sera pas suffisant. Les fonds levés lui permettront juste d'assurer sa survie jusqu'à la fin de l'année. Carmat a calculé qu'il lui fallait autour de 36 millions d'euros pour couvrir ses dépenses de développement sur les 12 prochains mois. Le concepteur du cœur artificiel est soumis, comme toutes les biotechs, à la frilosité des investisseurs. Un quart des startups de la santé n'a pas de visibilité financière au-delà de 3 à 6 mois selon France Biotech. Carmat espère que la croissance de son chiffre d'affaires pourra à terme prendre le relais, sauf que les prévisions ne sont pas au rendez-vous. En 2024, la société n'attend plus que 8 millions d'euros de revenus au lieu des 12 millions espérés. Il faudrait un déploiement massif du cœur artificiel dans les salles d'opération et ce ne sera possible que lorsque toutes les études cliniques seront validées. Et même selon les analystes, la société a encore besoin d'environ 150 millions d'euros pour atteindre son seuil de rentabilité d'ici à 2027.
Hélène Cornet, la survie de Carmat, toujours en question. Et puis, je vous le disais, ça va donc être l'événement ce soir à Paris, du Tout Paris, Xavier Niel, le patron d'Iliade, sur scène à 20h30 à l'Olympia, quelques jours avant la sortie d'un livre autobiographique. Bonsoir Nathan Cocampo, vous êtes devant l'Olympia. Le spectacle s'appelle « Comment Bonsoir. Devenir milliardaire ?» En toute simplicité, Nathan.
Oui, vaste question qui peut faire sourire quand on connaît le caractère bien singulier du patron de Free, qui cherche bien souvent aussi à casser les codes. Il n'y a que 53 personnes en France qui peuvent répondre à cette question, et un seul va le faire ce soir sur la scène de l'Olympia. C'est ce qu'on pouvait lire sur les sites de vente de billets, et l'Olympia est complet. 2000 curieux ont pris leur place en quelques heures, des tarifs compris entre 2 euros et 39,99. Ça rappelle là aussi les tarifs d'un certain opérateur téléphonique. Alors on se demande, qu'est-ce que va nous raconter Xavier Niel ce soir, le patron de Free, lui dont la fortune dépasse les 22 milliards d'euros. Xavier Niel n'a pas fait d'études, il débute avec le Minitel Rose à 16 ans, ce qui lui vaut de la prison, puis il construit son empire, empire autour des télécoms, mais aussi avec des investissements dans l'immobilier, dans l'intelligence artificielle, dans la presse. On le connaît pour son franc-parler, mais aussi pour ses colères, parfois. Et justement, le titre de son livre qui paraît la semaine prochaine, le voici, une sacrée envie de foutre le bordel. 300 pages d'entretien avec l'homme politique Jean-Louis Messica, qui se trouve être aussi l'ancien administrateur de Free. Bref, vous l'aurez compris, on va vivre sans doute une soirée assez exceptionnelle avec pas mal de surprises.
Sur le papier, c'est vendeur. On voit derrière vous les images. L'Olympia, ça commence à s'agglutiner devant l'entrée principale, évidemment. Merci beaucoup, Nathan. On vous retrouvera dans une demi-heure en direct sur BFM Business pour voir un petit peu comment tout ça se met en place. 20h30, donc Xavier Niel ce soir. Et c'est complet à l'Olympia. 19h10. On va sur les marchés. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Vous n'êtes pas sur scène, ça viendra un jour. Vous faites la rigolerie sur scène. À l'Olympia, hein, je vous demande à voir.
Hein. Oui, si vous voulez. Si, rien que pour vous.
Alors ne serait-ce que pour moi, je demande. On a terminé en baisse ce soir à la Bourse de Paris.
Hein. Ouais, la prudence hein, avant la décision de la Fed, hein, bien entendu. Oui. 25, 50 points de base. Bon, le débat reste ouvert. Pour l'instant, le CAC 40, lui, baisse de 0,57%. Il perd tout ce qu'il avait gagné hier. On redescend à 7 444 points. L'Euronext Tech Leaders sous-performe d'ailleurs. Le reste du marché perd 0,83%. À noter l'Eurostock 50, moins 0,5%. Francfort, quasi inchangé, moins 0,08%. Il y a le secteur de la défense qui s'est bien rattrapé aujourd'hui. Vous vous souvenez, hein, hier en fin de séance, c'était un petit peu compliqué, notamment pour Thales, mais qui là signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 244,90 €. Des valeurs un petit peu traditionnelles, cycliques, hein, qui signent de belles progressions. Carrefour, plus 0,9, 15,56, Bouygues, plus 0,77, 32,60. En revanche, séance un petit peu difficile pour le luxe. C'est LVMH qui signe la plus forte baisse du CAC 40 à moins 1,94, 595,90 €. Puis deux titres en forte hausse à signaler quand même. Atos, ça marche encore. Mais oui, ils viennent de décrocher un gros contrat. Et du coup, le titre gagne 7,11% à 73 centimes pour des super calculateurs. Puis Ubisoft qui poursuit son redressement. Plus 6,5% à 12,61 € avec une recommandation positive d'analyste. Le CAC, moins 0,57, 7,444 points. Et l'euro, tranquillement au-dessus d'un 11 face au dollar. On est à 1,1121.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street où ça bouge pas beaucoup. Forcément, on attend la décision de la Fed tout à l'heure aux alentours de 20h. Le Dow Jones, voilà. Encéphalogramme plat, plus 0,1%. Le Nasdaq, plus 0,1%. 17 653 points, bien sûr, à la mi-séance. 19h12. Nos experts arrivent dans un instant. Hausse d'impôts ou pas, la classe politique dans tous ses émois. On va bien sûr largement en parler. Le coup de gueule du patron de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Ce rapport pour booster les salaires des classes moyennes, le rapport Bozio-Vasmer. Il y a des choses qui commencent à sortir. Et puis, bien sûr, Xavier Niel. Sur scène ce soir, le spectacle que le tout Paris des affaires attend, bien sûr. Tout ça, plus plein d'autres choses, évidemment. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h16, 19h17, même ils sont là, nos experts du soir, pour refaire l'actu jusqu'à 20h. Julien Damon est avec nous. Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, professeur à Sciences Po. Cyril Lachèvre est avec nous. Bonsoir Cyril, bienvenue, fondateur
bonsoir.
De l'agence Silence. Et Benjamin Coria, prof de Sciences Éco à Paris 13, qui va nous rejoindre quand le périple se sera débloqué, parce qu'on en revient toujours à ces problématiques 100% parisiennes. Nous avons plein de choses à voir ce soir ensemble, à commencer, bah, je le disais juste avant la pause, à cette... Ces hausses d'impôts dont on ne sait pas si elles vont avoir lieu, dont on ne sait pas si elles vont se matérialiser ou pas. En tout cas, tout ça met la classe politique dans des émois considérables. Il y avait des réunions qui étaient prévues aujourd'hui avec Michel Barnier, avec les LR, avec le camp macroniste. Et finalement, rien de tout ça s'est passé. Écoutez, en tout cas, ce que disait ce matin François Villeroy de Galhau, pour lui, il faut quand même en venir aux hausses d'impôts, finalement.
La bonne proportion, probablement, c'est que 3/4 de l'effort soit fait par des économies de dépenses. Mais si on doit faire un effort fiscal, je le dis, pour probablement environ un quart de l'effort. Un quart seulement. Hein. J'insiste sur les proportions parce que le débat est parti très fortement depuis hier.
Si j'ai bien compris, ça veut dire 5 milliards par an.
De l'ordre de 5 milliards.
Okay.
Ce sera au futur gouvernement et au Parlement de l'apprécier. Et là, je crois qu'il serait très souhaitable de ne pas toucher aux classes moyennes et aux PME parce que ça augmenterait leur attentisme ou l'incertitude dont nous parlions tout à l'heure. Par contre, il ne faut pas exclure un effort exceptionnel et raisonnable de certaines grandes entreprises ou de certains gros contribuables. Par exemple, tant qu'on n'est pas revenu sous les 3% de déficit. Ça peut être un effort temporaire.
Ce qui m'inquiète, c'est que dans la même phrase, il dit un effort exceptionnel donc en matière de hausse d'impôts, mais il dit tant qu'on ne sera pas revenu sous les 3%, ce qui là, par contre, va prendre quelques années. Donc, on dit toujours attention au provisoire qui dure et qui s'installe, Julien Damont. Donc, est-ce qu'on est parti pour une purge là, sur plusieurs années en matière de hausse d'impôts? Alors, pour qui, on verra bien.
En tout cas, attention au provisoire éternel. C'est même pas le provisoire qui dure, là, en l'espèce. Est-ce qu'on est parti pour. Tout le monde a l'impression de savoir ce qui va se passer. Tout le monde s'inquiète d'une de baisse de prestations sociales, de baisse de dépenses publiques et de l'autre côté de l'échiquier politique d'augmentation
on parle pas tout
de la fiscalité.
Dépenses publiques, hein. Là, on est sur les hausses d'impôts.
Quand même, oui, mais tout à l'heure, notre grand chef de la Banque de France expliquait que pour un quart, quand même, c'était l'augmentation de prélèvements. Pour les trois autres quarts, il faut voir ce que c'est.
Je pense que c'est plutôt. Le débat, vous voyez bien qu'il se focalise.
Ah ben voilà, moi j'écoute les gens autorisés, pas les hommes politiques qui se bagarrent. Non, mais de toutes les façons, à force de dire que la crise est devant nous, que le mur se rapproche, on va le toucher, ce mur. Et ce mur, c'est un mur de déficit colossaux, tout le monde est au courant, il n'y a que deux voies essentielles pour régler ça, c'est moins de dépenses, plus de recettes. On va dire qu'on peut aussi continuer l'endettement, mais ça semble extrêmement problématique parce que ça correspond tout de même à plus de dépenses. Donc oui, on va y passer.
Bon, donc on va y passer, on est d'accord, Cyril. Reste à définir le curseur, les modalités de ces hausses d'impôts, mais on y va, quoi. Voilà.
Alors moi, je n'irai pas jusque-là. En fait, je
vous pensez
que
la séquence faire de la dette comme
non, enfin, était, comme... je pense que là, on est dans une séquence totalement politique. Ça va pas vous surprendre, mais qui s'est un peu accélérée depuis 48 heures, et on a l'impression parce que. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre, Michel Barnier, n'a aucun mandat. Il n'y a pas de mandat populaire, puisqu'il n'y a pas eu véritablement d'élection, en tout cas de débat lors de ces élections, sur quelle tendance économique, hausse d'impôts, réduction des dépenses publiques. Donc il a zéro. Le peuple ne lui a donné aucune direction économique. Donc qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours? On agite des ballons d'essai. Qui permettent après finalement de voir comment réagissent les uns les autres. Donc on a très bien vu aujourd'hui par exemple Gabriel Attal qui dit tout de suite pas de hausse d'impôts avec Gérald Darmanin et puis étonnamment les écologistes et puis même le RN qui dit oui pourquoi pas sur la justice fiscale. Donc en fait on a l'impression que Michel Barnier fait en accéléré une sorte de campagne pour dire voilà où est-ce que vous êtes d'accord, où allons-nous atterrir. Voilà, ça c'est pour l'aspect j'allais dire politique et communication. Après de toute façon ce que dit François Villeroy-de-Gallo et ce que dit aussi Pierre Moscovici c'est que quand bien même on fait des hausses d'impôts sur les ultra-riches, ça ne peut être que symbolique d'une manière, parce que c'est pas eux qui vont combler les déficits. Et puis avec 48% de taux de prélèvement obligatoire, je vois pas, enfin 8 points de plus que la moyenne européenne, record presque du monde, je vois pas très bien jusqu'où on peut continuer à monter. Donc, et au-delà de l'image désastreuse par rapport aux 5 dernières années de baisse d'impôts, de stabilité fiscale.
Alors voilà, Benjamin Coria, c'est là, quand bien même on irait chercher quelques milliards du côté des plus riches, effectivement, c'est pas le Pérou, d'où l'avertissement de François Villeroy de Gallo qui dit il faut que les trois quarts de l'effort viennent de la baisse de la dépense publique, pas des hausses d'impôts finalement.
Non mais il y a plusieurs choses. Qu'il y ait une dimension politique voire politicienne dans le débat actuel, c'est tout à fait sûr. Maintenant l'autre aspect de la question, et ça je pense que c'est une bonne nouvelle, le mantra fiscal, le tabou fiscal, on ne touche à rien, on ne fait que diminuer, il a sauté, c'est terminé, tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. Moi je suis tranquille parce que ça fait un moment que je dis ça, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, alors après, la question c'est où est-ce qu'on peut... Non, il y a deux questions, quelles sont les dépenses qui peuvent être rationalisées? Parce qu'il ne faut pas éliminer cette question. Ça, c'est sûr qu'il y a des choses. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Des dépenses ou des dépenses fiscales, qui est le sujet de tout à l'heure. Bon, donc sur quoi il faut travailler d'un côté. Et puis alors trois quarts, un quart, moi j'en sais rien, mais je veux dire c'est toute la discussion. Et puis après c'est sûr que il y a des problèmes avec à la fois le 0,1% des plus riches, voire éventuellement davantage, et avec les profits exceptionnels des grandes sociétés. Ça fait plusieurs milliards, ça. Hein, ça fait pas les 20 milliards, mais ça en fait probablement la moitié ou un gros tiers. Donc il faut vraiment pas considérer que c'est rien du tout, parce que l'argument consistant à dire ah oui tout ça ça rapporte rien, non c'est pas vrai.
Ça rapporte rien, mais quel signe vous envoyez
Non mais si je de toute façon moi j'ai toujours plaidé pour une mise à plat. Et pas seulement pour des ajustements marginaux. Alors ça peut pas se faire d'un seul coup. Donc il faut avoir un plan, etc. Mais notre système fiscal, comme on l'a hérité, il est intenable.
Alors,
il est intenable.
Donc on est sur les hausses d'impôts. On n'est pas du tout. On parle pas du tout ici de la remise à plat, la réforme de l'État, la mise à plat du périmètre de l'action de l'État finalement, qui est un peu le non-dit de cette histoire une fois de plus. Julien, on est d'accord.
Oui, alors c'est là que tout le monde...
Là, on se focalise sur des hausses d'impôts qui vont nous permettre d'aller récupérer quelques milliards, alors que la dépense publique, bah, c'est 1300 milliards, quoi, dans ces eaux-là, à peu près. Quoi.
Oui, c'est-à-dire que d'ailleurs, le mot impôt, d'ailleurs, on parle bien du prélèvement obligatoire d'État ou de collectivité locale, alors que le plus grand prélèvement, ce sont les cotisations sociales, en masse financière. Donc, ce que je pense qui est assez marrant dans la période, c'est que tout le monde se réfugie de l'expression justice fiscale. Et comme personne n'a la même conception de la justice fiscale, on risque de se prendre le mur en pleine figure, parce qu'il peut y avoir trois conceptions de la justice fiscale. Il y a trois conceptions techniques possibles de l'impôt. Et chacun va dire que cette technique est la plus juste de son point de vue. La première, c'est de dire l'impôt est forfaitaire. Tout le monde paye la même chose, quels que soient ses revenus. La deuxième, c'est l'impôt est proportionnel en fonction de ses revenus. Et la troisième, c'est l'impôt est progressif, donc les riches payent plus. Par exemple, on prend la TVA, qui est proportionnelle, non pas aux revenus, mais à la consommation. Oui. Les uns vont dire c'est l'impôt le plus injuste qui soit, quand les autres vont se lever en disant c'est l'impôt le plus juste qui soit. Donc il faut mettre de côté toute la rhétorique politique derrière la justice fiscale, et il faut regarder ce que sont les grandes masses financières dans lesquelles on doit pouvoir trancher d'un côté, du côté dépenses. Il y a les retraites, par exemple. Et de l'autre côté, du côté des prélèvements, bah, ce sur quoi il faut faire quelques efforts qui ne seront jamais uniquement ponctuels, qui ne peuvent être que structurels, qu'à pour le temps long.
C'est vrai que la justice fiscale, c'est une notion très subjective, on est d'accord.
Bah oui, c'est ça, c'est comme le niveau de richesse.
Non, Benjamin, pas la justice.
Non, pas seulement.
Vous avez votre vision de la justice fiscale.
Non,
comme
mais
si
quand les hauts patrimoines, quand les très hauts patrimoines payent 10% d'impôt de succession, alors que la moyenne, elle est à 40 ou 45, au-dessus de 1,8 million.
Ouais, ça, c'est
problème.
Pas vrai. La moyenne est à 6% sur les successions.
Ne me dis pas comment ?
La moyenne est à 6% sur les successions. Vraiment,
non, 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 non. Au-dessus de 1,8 million. Alors, les successions de 3 francs 6 sous, alors, effectivement, c'est zéro.
Ah oui, mais si on prend 2 millions, ça fait encore plus. Non, non, regardez les moyennes.
Si vous voulez, vous êtes la seule personne du monde, franchement, je vous le dis honnêtement, qui considère que la fiscalité ne touche pas des questions d'équité sociale.
Bah, je viens de dire le contraire. Bon.
Comment ?
Tout le monde a une version de l'équité.
Discutons-en. Alors après, on peut mettre des chiffres sur la table et voir si c'est équitable ou pas. Mais dans la question de la fiscalité, elle est intrinsèquement liée à la question de la répartition équitable du poids.
Mais il y a des conceptions de l'équité qui sont très différentes.
Oui, ça c'est vrai.
Il y a un Lucky Luke qui est très bon. Vous avez un type qui est là en train de dire c'est inique, et tout le monde est là en train de dire oui, il a raison, mais personne ne sait ce que ça veut dire.
Si il achève la justice fiscale, oui, notion très subjective, évidemment.
Non seulement c'est pas ça. Subjectif, mais enfin, j'en reviens, je suis désolé à ce chiffre. 48% de taux de prélèvement obligatoire, on est à un record de monde, on n'a pas la croissance, la productivité, les finances publiques qui sont en adéquation avec ce taux de prélèvements fiscaux. Donc, je veux dire, si l'impôt rapportait, j'allais dire, quelque part à la dépense publique et permettait d'améliorer les choses, au-delà de ces conceptions éthiques de justice ou pas, on le saurait. Et ça ne marche plus en France, je suis désolé, ça ne marche pas.
Tout ça dans un contexte budgétaire dégradé. Alors, écoutez Pierre Moscovici qui s'est un petit peu lâché ce matin, le premier président de la Cour des comptes, qui dit les déficits ramenés, vous savez, à 5,1% du PIB, j'y crois pas. 3% en 2027, j'y crois pas. Et dit non seulement j'y crois pas à 3% en 2027, mais c'est pas souhaitable finalement. Écoutez ce qu'il disait.
Les objectifs fixés pour 2024 ne seront pas atteints. Nous sommes, il faut le dire d'emblée, devant une situation de finances publiques que je considère comme vraiment inquiétante. Je pense aussi que le budget pour 2025 sera sans doute le plus délicat ou un des plus délicats de la Ve République. Et non, je n'y crois pas. Non, 3% en 2027, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable, j'ajouterais, à ce stade.
C'est intéressant, il dit faut pas y aller à toute vitesse.
Oui, mais je crois qu'il y a un consensus pour dire que c'est impossible.
Vous cassez la croissance, 3% en 2027, ouais, la note du Trésor qui dit il faut 110 milliards d'euros d'économie d'ici là, faut pas y aller comme ça, on est d'accord.
Il y a un consensus général pour dire que ça n'est pas possible et qu'il faut renégocier avec Bruxelles pour faire passer... Ah mais, écoutez, ils en ont emballé d'autres des couleuvres, Bruxelles. Ouais. Vous plaisantez ou quoi?
Et puis c'est Michel
ça
Barnier...
Va passer, mais ça va passer comme...
Et comme c'est Michel Barnier qui connaît bien, ils vont nous faire une ristourne, c'est ça
ah,
Dire,
non, mais voilà, comment dire, je veux dire, c'est pas réaliste. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pénaliser la France parce que, pour toute une série de raisons, elle atteint pas les 3%. C'est évident. Moi, je prends date ici. C'est évident que ça va être renégocié et porté à 2029 ou 2030. Je prends date. C'est évident. Et ça va passer. Ils vont faire semblant de hurler à Bruxelles. Mais ça va passer, bien
d'accord,
entendu.
D'accord, Cyril, vous pensez que ça va se terminer comme ça? Parce que Michel
Mais
Barnier,
c'est pas possible. De toute façon, c'est pas possible.
C'est malheureusement pas possible et économiquement pas possible parce que de toute façon, on n'a fait aucun effort au cours des 7 dernières années pour y parvenir. Donc, et encore, quand je dis des 7, je devrais dire des 30 dernières années. Donc, effectivement, on est une fois de plus au pied du mur. Bruxelles cédera, oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. Évidemment, la France ne peut pas couler encore plus qu'elle ne coule.
Enfin, question, oui.
À un moment donné... ça finira bien par se retourner contre nous. Enfin, il ne faut pas y voir la moindre victoire si jamais Bruxelles repousse de 3 ans. Un, on le payera soit par les marchés financiers, soit parce que les déficits d'aujourd'hui, c'est quand même effectivement les impôts de demain ou ceux de nos petits-enfants. Enfin, je veux dire, donc quelque part, il ne faut pas s'en réjouir. Et surtout, pour le coup, quand on discute avec des partenaires européens ou du moins des personnes, notamment en Allemagne, il y a une colère contre la France ou du moins une détestation de ce que nous sommes en train de faire, d'un côté manque de confiance absolue entre partenaires qui est extrêmement inquiétant. L'Europe n'est pas immortelle.
Ça se paiera par les taux d'intérêt et ça s'est payé de l'épisode Thierry Breton.
Et les Allemands vont économiquement très mal et ils ne soutiendront pas éternellement.
Ça se paiera, on est d'accord avec tout, même si Bruxelles nous donne un délai de 2 ans, 3 ans supplémentaires. Vous êtes d'accord?
Absolument, moi je suis d'accord avec mes deux camarades. J'ajouterais juste un point, c'est que l'amende qui plane au-dessus de la France est de 2 milliards d'euros. Je vois difficilement un gouvernement... Je veux pas un gouvernement nous dire qu'il faut payer plus d'impôts pour payer une amende à Bruxelles. Ça paraît très compliqué. Donc, négocier.
2 milliards d'euros pour s'offrir 3-4 ans, limite, c'est pour...
Ah, mais je pense qu'attention, les 2 milliards d'euros, c'est pour cette année, mais ça serait aussi pour l'an prochain, etc. En cumulé, c'est problématique. Donc, ce sera renégocié.
Depuis à ça près, 3 200 milliards d'euros.
Ah non, c'est pas du tout ça que je dis. Hein. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis que l'Europe, dans l'état où elle est, n'est pas en position de pouvoir imposer quoi que ce soit à la France. Mmh. C'est ça que je dis. C'est n'importe quoi. Vous avez regardé comment est composé le nouveau gouvernement de l'Union européenne. Il n'y a pas une tête qui dépasse. Mmh. Van der Leyen fait exactement ce qu'elle veut. C'est d'un ridicule achevé.
Allez, 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h35, on est ensemble jusqu'à 20h, sans pub, avec nos experts Julien Damon, Benjamin Coria et Cyril Lachèvre sont avec nous. Alors, c'est l'autre feuilleton qu'on a suivi depuis 24h, donc je voulais vous en faire profiter. Hier, Matignon, aujourd'hui, Bercy pour Charles de Courson et Éric Coquerel qui étaient venus chercher les fameuses lettres plafond. On leur a claqué la porte au nez hier à Matignon. On leur a claqué la porte au nez aujourd'hui du côté de Bercy. Écoutez, Éric Coquerel, qui était encore plus désemparé qu'hier aujourd'hui. Écoutez.
Je pense qu'on est en train de franchir aujourd'hui toutes les lignes rouges vis-à-vis du droit du Parlement, et toutes des lignes inédites également, puisque je crois que nous avons, avec Charles de Courson et moi-même, j'allais pas dire le privilège, parce que c'est plutôt l'inverse, d'être, à mon avis, le premier rapporteur général du budget et le premier président de la Commission des Finances à qui Bercy refuse des documents budgétaires tels que la loi organique les autorise à le demander.
La loi les autorise, mais il n'y a pas d'obligation à donner ces fameuses lettres plafond qui sont de toute façon complètement obsolètes au passage. Bon, enfin, après, ça, c'est un autre...
Oui, mais... Alors, vous avez... Pour la première fois, vous allez m'entendre dire que je suis d'accord avec Éric Coquerel. Sur la forme, bien sûr que c'est obsolète, mais sur le fond, il y a quand même quelque chose d'assez stupéfiant et puis même de... effrayant, cynique, dans ce côté, tout d'un coup, Michel Barnier qui dit, alors lui, pour le coup, effectivement, il était plus aux affaires, donc il découvre aujourd'hui l'ampleur de la situation budgétaire. Son directeur de cabinet qui vient de nommer est l'ancien directeur de cabinet oui. de Bruno Le Maire, qui était donc, l'ancien patron de la DGFiP, des finances publiques, qui a remplacé Emmanuel Moulin, qui lui était l'ancien patron du Trésor, directeur de cabinet de Gabriel Attal. Tous ces hauts fonctionnaires qui sont brillants par ailleurs, connaissent la situation par cœur. Et je trouve qu'il y a quelque chose de malsain, franchement malsain, de tout d'un coup faire comme si on... Parce que Michel Barnier aujourd'hui a quasiment redemandé un audit, quoi, encore pour la 50e fois. Donc tout le monde la connaît par cœur, cette situation. Après, ils jouent avec le Parlement sans vouloir leur, enfin, officiellement leur dire quoi que ce soit. Mais c'est malheureux.
C'est garder le mystère sur ces lettres plafond avec plein de mystères à qui on a retiré quelques milliards ici ou là quand même.
Moi, je suis stupéfait, quoi, par cette séquence. Parce que je veux dire, on sait que ça va pas, c'est pas un secret. Bon, je veux dire, Charles de Courson, c'est quand même pas un communiste avec les dents, le couteau entre les dents. On refuse à Charles de Courson des données concernant les lettres plafond. Où est-ce qu'on est là? Mais où est-ce qu'on est? C'est incompréhensible. Et ça contribue à tendre le climat politique et cette fois économique.
Mais vous savez très bien quelle est l'histoire, c'est que si ces lettres plafonds sont divulguées, on va se rendre compte que plein de ministères ont des budgets rognés pour l'an prochain. Quand vous êtes en train de constituer votre gouvernement,
attendez, il fallait pas les écrire. À partir du moment où il les a écrits, on assume.
Bon, Julien, je sais pas si vous avez un commentaire sur cette séquence qui a tous fait sourire.
Effrayant est le terme qui me semble parfaitement convenir, au sens où les personnes à la manœuvre sont au courant de la situation budgétaire, les think tanks également, les experts aussi. Moi, je trouve que on va pas dire que la Ve République vit ses dernières heures, mais elle vit une épreuve de vérité assez fondamentale, avec un présidentialisme qui s'effondre, un parlementarisme qui n'arrive pas à se mettre en place. En témoigne le fait que les parlementaires de haut rang ne se voient pas donner les informations dont ils ont besoin. Et plus généralement, ce qui est très embarrassant, c'est que tout le monde se bagarre pour dire il faut augmenter les impôts, non, il faut pas, il faut baisser les dépenses, non, il faut pas. Mais personne n'a la liste précise de ce qu'il propose comme soit baisse d'impôts, soit hausse d'impôts, faut suivre, soit baisse des dépenses. C'est ça qui me semble le plus préoccupant.
Bon, ils étaient hier à Matignon, ils étaient aujourd'hui à Bercy, je ne sais pas où ils seront demain, où ils peuvent encore glaner des infos,
pas au gouvernement, mais enfin...
Non, mais non plus.
Non, mais
vous me direz.
Une remarque, parce que je veux dire, le spectacle que nous donnent les États-Unis aujourd'hui est vraiment extrêmement triste. Je veux dire, il ne faudrait pas que la France prenne ce chemin, quand même. Quand Bercy refuse à Charles de Courson et à Coquerel, qui malgré tout est le président
de la commission
des
finances,
des documents de base sur l'état de l'économie de la France, on n'est pas loin. Hein.
C'est révélateur d'un certain climat. On voulait parler salaire quelques minutes avec ce rapport qui était très attendu, qui avait été commandé alors par Elisabeth Borne, deux économistes qui sont Antoine Bozio et Étienne Vasmer. Alors, rapport qui devait répondre à cette question, comment soutenir les salaires de la classe moyenne ? En gros, sans passer par les positions radicales comme SMIC à 1600 euros. Et alors, il se trouve que les grandes lignes de ce rapport sont sorties dans le journal Les Échos ce matin. Et l'idée de fond, on va essayer de schématiser tout ça, parce que c'est compliqué, hein, Julien, c'est de dire il faut arrêter de faire tout ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire exonérer toujours plus bas les salaires. On remet en place un nouveau système. C'est quoi l'idée fondamentalement? Est-ce que vous pouvez expliquer ça en une minute sans qu'on s'endorme au volant
Alors je vais le faire. Tagada poète, comme je pense que les gens ne vont pas s'endormir, mais la tagada poète coûte 75 milliards d'euros.
C'est le montant des allègements de charges.
Allègements de charges qui existent depuis 1993, qui se sont donc considérablement étendus et complexifiés, puisque que l'on soit en zone de revitalisation rurale ou en zone de revitalisation urbaine, ce n'est pas exactement les mêmes cotisations, les mêmes exonérations qui sont en place. Ceci contribue à, l'expression est bonne de mon point de vue, elle est peut-être moralement discutable, mais la smicardisation de la France fait que des gens sont coincés avec des petits salaires parce que leur net, s'il doit être augmenté, cela coûte une fortune.
Au niveau du SMIC, on a expliqué.
Au niveau du SMIC, absolument.
Augmenter de 100 euros au niveau du SMIC.
Voilà, ça va coûter... Non, augmenter, le truc très précis, c'est
pour qu'un salarié au niveau du SMIC ou de 1,2 SMIC gagne 100 euros net en plus par mois, il faut prendre en compte sa prime d'activité qui lui était versée et qui lui sera versée dans des proportions moindres. Il faut prendre en compte le fait qu'il va devenir imposable. Il faut prendre en compte le fait que l'employeur va lui commencer à payer des cotisations sociales de façon plus prononcée. Ouais. Tout ceci coûte une fortune à l'employeur. Ce que propose ce rapport, que personne n'a lu, à part les échos...
500 euros au niveau SMIC. Hein.
Oui, que propose ce rapport deux excellents économistes qui connaissent très bien les rouages du système socio-fiscal, c'est à la fois de simplifier pour qu'il n'y ait pas cette myriade d'exonérations auxquelles personne ne comprend rien sauf eux, et deuxième chose, pour que ces 75 milliards, s'ils doivent rester à budget constant, soient centrés sur non pas le SMIC ou 1,6 SMIC, même jusqu'à 3, SMIC, mais plutôt sur la classe moyenne. Voilà. Mmh. Ça, l'idée force.
Benjamin.
Non, mais moi, ça va,
c'est bien, tout
à fait. Tout
félicitations.
Tout à fait. L'idée, pour le dire encore plus simplement que vous, d'une certaine manière, c'est de moins dégréver fiscalement le SMIC et davantage aider davantage les salaires moyens.
Totalement l'inverse de ce qu'on fait depuis des années, en fait.
Comment ?
Totalement l'inverse de ce qu'on fait depuis des années, en fait.
Totalement l'inverse de ce qu'on fait pour depuis des... Enfin, c'est pas totalement l'inverse. C'est une rectification majeure. Ça veut dire qu'on continue à aider les bas salaires, mais c'est plus les plus bas qu'on va aider autant qu'on les aidait.
Oui, c'est ça.
On va les aider un peu moins. Mmh. Et l'argent qui est économisé, si je peux dire, va être mis plutôt sur des salaires moyens.
Ah oui.
Voilà. Et on arrête de faire des dégrèvements fiscaux à partir de 2 SMIC 5 au lieu de 3 SMIC 5. Bon. Tout ça, moi, ne me choque absolument pas. Il faudrait voir le détail des mesures préconisées. Mais sur le fait de revoir notre système de dépenses fiscales en faveur des différents types de bas salaires, des différentes gradations, ne me choque absolument pas.
Ok, d'accord.
Et je trouve que pousser les dégrèvements fiscaux, puisque c'est de ça qu'il s'agit, jusqu'à 3 SMIC 5, c'est de la folie. Mmh. C'est de la folie.
Les entreprises qui payent
3 SMIC 5, elles n'ont pas besoin de dégrèvements fiscaux. Je pense vraiment ça. Bon.
Mais si on va vous dire, c'est la fuite des connaissances, c'est la fuite des cerveaux, c'est la fuite des compétences assurées.
Mais non, on raconte n'importe quoi. Bon, en tout cas, voilà. Alors, moi, je ne suis pas choqué et je pense qu'il y a une réflexion à avoir et donc des mesures à prendre.
C'est un vrai Big Bang quand même, Cyril, si on met ça en place. Alors évidemment, c'est très confus comme ça, mais c'est un sacré...
On essaie de refermer la trappe à bas salaire.
Oui,
Après, ça c'est vraiment une caractéristique française, c'est notre ADN, mais on parle fiscalité comme d'habitude, là où on pourrait aussi parler amélioration de la formation pour permettre aux personnes, les gens d'avoir des métiers qui leur permettent de ne pas toucher le SMIC, etc. etc. Mais enfin, ça c'est un autre débat, mais c'est vrai qu'on va encore pendant des mois et des mois parler de ce genre de sujets fiscaux, de ce allègement de charges, alors qu'il faudrait aussi parler formation.
Oui. Non,
vous voulez dire. Non, mais c'est un petit problème sémantique, mais à 2 francs ou à 2 euros.
Oui.
C'est que vous avez beaucoup parlé de dégrèvements fiscaux, c'est essentiellement des cotisations sociales. Donc c'est pour faire le malin, c'est des allègements de cotisations.
C'est
un jeu de fiscalité.
Oui, c'est des exemples.
Il y a cet outil socio-fiscal.
Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison.
Voilà pour ce dossier.
Encore une fois, orienter la politique économique avec la fiscalité.
De la smicardisation qui va nous tenir en haleine. Il est 19h45. Alors, on va faire un petit détour, vous savez quoi, du côté de Lola. Parce que vous savez que c'est le grand rendez-vous, le grand show de la soirée du côté de l'Olympia. Xavier Niel qui va faire son show tout à l'heure sur scène avant la sortie de son bouquin la semaine prochaine, la rédaction de BFM Business. C'est Frédéric Simotel qui est avec nous depuis l'Olympia pour en parler. Bonsoir Frédéric. Alors c'est intéressant parce que on était tout à l'heure avec Emmanuel Le Chip qui nous disait ce que va faire Xavier Niel. Moi ça me rappelle... En attendant de voir, bien sûr, mais ça me fait penser à ce que faisait Bernard Tapie dans les années 80 quand il faisait des conférences. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose du même acabit pour vous ce soir à l'Olympia ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas sur la simple promotion de son livre. Vous savez qu'il sort dans une semaine. On est vraiment sur... il a dit qu'il allait présenter sa vie. Comment devenir un milliardaire ? C'est le titre de la soirée. Donc on va voir... Moi, je pense qu'il pourra, il va sans doute faire venir quelques personnalités qui l'ont accompagné tout au long de son parcours. Et puis, ben voilà, c'est quand même quelqu'un qui aime casser les codes. Hein, c'est un trublion des affaires, comme on l'appelle, mais qui vit vraiment qui vit avec un certain succès. Il est présent évidemment dans l'univers des télécoms, de l'internet, mais aujourd'hui, il essaie de s'étendre à l'international. Enfin, il s'étend à l'international. On le voit aussi dans le monde de la presse. Il a investi aussi beaucoup dans l'immobilier, Station F, les startups, tout ce qu'on lui doit. Voilà, je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter. C'est un acteur aujourd'hui incontournable du paysage économique français, pas seulement du paysage numérique, vraiment du paysage économique. Et puis, on ne sait pas trop qu'attendre de ce spectacle parce qu'il nous a tellement habitués à disrupter le marché qu'il va peut-être ce soir disrupter justement un one-man show que l'on attend impatiemment. Ce sera à 20h30 derrière moi, là, à l'Olympia.
Et c'est complet, hein, Frédéric, vous nous confirmez qu'il va faire ça le comble ce soir, Xavier Niel.
Ah oui, c'est complet. On voit arriver tous les... Alors, pas les invités, parce que justement, les personnes présentes ont tous payé leur place. Alors, entre 2,99€ et 39,99€, oui. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle un clin d'œil, évidemment, au forfait free. Eh bien, ils sont tous là. Certains, on attend, évidemment. Alors, pour la presse, on aura le droit de partir avec le livre. Les autres devront attendre la semaine prochaine. Mais voilà, en tout cas, une soirée très attendue. Et puis, je regardais un peu les gens qui arrivent. Évidemment, des personnalités de l'écosystème numérique, mais pas seulement. Il y a de simples curieux qui apprécient le personnage et qui donc veulent en savoir un peu plus sur lui. C'est ce qu'on va découvrir d'ici une grosse demi-heure sur la scène de l'Olympia.
Ouais, ça va, 20h30. Merci beaucoup Frédéric Simotel avec nous depuis l'Olympia à Paris. Alors le spectacle s'appelle Comment devenir milliardaire, et puis le bouquin qui va sortir la semaine prochaine avec un titre assez fleuri, ça s'appelle Une sacrée envie de foutre le bordel, aux éditions Flammarion. C'est, vulgairement parlant, ça s'appelle Se faire plaisir. Ça s'appelle se faire plaisir, ce genre de show là.
Moi, j'allais dire, ça apportait un petit vent de fraîcheur sur une actualité bien,
c'est vrai,
bien triste. Moi, je trouve que c'est un personnage assez étonnant. Enfin, il est plus qu'étonnant, mais vraiment, vraiment très intéressant, parce que de par son parcours, effectivement, il a pas fait d'études, il a plus que flirté avec la prison et il a créé une entreprise géante.
Le pitch, c'est un enfant de Créteil qui n'a pas fait d'études, qui a fait de la prison, qui est devenu milliardaire.
Ouais, exactement. Moi, c'est un patron de presse et l'ancien journaliste que je suis sait que c'est un très bon patron de presse au sens où il laisse une liberté totale à ses équipes. Enfin, je veux dire, c'est quand même un homme assez admirable à ce niveau-là aussi. Enfin, je veux dire qu'il y a une vraie éthique derrière le côté un peu turbulent. Donc non, c'est un personnage étonnant, et je trouve que le fait que ses places aient été vendues en 24 heures quand même, ça veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui veulent apprendre à devenir milliardaire en France. Moi, je trouve que c'est plutôt très, très... rafraîchissant.
C'est plutôt rafraîchissant. Non, ouais. Benjamin, je vous sens un peu plus dubitatif.
Oh oui, là, moi, je suis.
Faisais le parallèle avec Bernard Tapie, c'est un
type. Ah, moi, ça, je trouve ça très bien. J'avais pas entendu ça.
Combien de patrons on a reçu ici qui nous ont dit, Bernard Tapie fait partie des mecs, qui a fait partie de ces mecs qui m'ont inspiré, quoi.
Oui, oui, non, mais ça, il y a incontestablement, il y a un côté Bernard Tapie, y compris d'ailleurs dans le parcours. J'espère que ça finira moins mal pour Xavier Niel. Non, moi, très honnêtement, vous me connaissez, je parle cash. Je trouve ça un peu indécent. C'est-à-dire que quand on a la réussite de Niel, quand on a la fortune de Niel, quand on a la position médiatique de Niel, bon, soit on fait des choses utiles, il a sûrement des choses à dire, bon voilà. Mais pour le reste, on se fait discret.
Regardez Station F, tout ça.
Pour le reste, on se fait discret. Dans la situation.
Allez-vous balader à Station F, voir le nombre de gamins, le nombre de
startups. Mais Bernard Tapie, c'était pareil. Bernard Tapie, c'était pareil. Bon.
Il a créé une école.
Et ça finit comment? Et ça finit comment? Non, si vous voulez. Moi, je trouve que dans l'état de la France, dans l'état d'inquiétude, dans l'état de misère pour une partie de la population, etc. Se donner en spectacle à l'Olympia quand on est Xavier Niel sur le thème comment devenir milliardaire, il y a un côté
du
que je trouve
degré,
moi je trouve degré. Ça indécent.
Il y a pas, vous dites pas il y a un message d'espoir, je disais
non là, mais non, parce que quand on veut distiller un message d'espoir, on s'y prend autrement.
Bon,
je veux dire, bon.
Julien.
En plus, il fait un show avec Saada, avec Canal+, alors même qu'il vient de faire un deal avec Canal+. Donc, je veux dire, Neil Bolloré, ça fait beaucoup quand même.
L'Olympia,
ça fait beaucoup pour un seul spectacle.
C'est le symbole de l'Olympia.
Évidemment. Bon, enfin, chacun fait comme il veut. Moi, vous me demandez mon avis, je vous le donne.
On vous le demande, bien sûr. Julien, est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Vous
pas spécial. Alors, on a les deux avis qui s'opposent, vous voyez, mais je dirais plutôt dans le sens de ceux qui voient là quelque chose de marrant, d'original. Si des gens sont intéressés pour aller voir le spectacle. Et s'ils veulent par la suite lire l'ouvrage, c'est très bien. C'est marrant parce qu'on fait le lien avec Bernard Tapie. Personne ne le fait encore parmi les critiques avec Trump, qui a écrit un bouquin exactement en ces termes et qui a fait des spectacles grandioses. Vous pouvez les trouver sur Internet. On le voit presque déguisé en lapin jaune. C'est avant qu'il soit président, avant qu'il ait des responsabilités majeures. Peut-être que Xavier Niel va-t-il devenir premier ministre ou président après cela. Voilà.
Allez, c'est terminé. 19h51, l'extra time, comme tous les soirs. 30 secondes pour vos avis, coup de gueule ou coup de cœur. 30 secondes. Benjamin, vous voulez commencer ? Allez, 30 secondes.
Oui, je veux bien commencer. Bon, c'est un peu un coup de gueule parce qu'il y a un deuxième rapport qui vient d'être fait sur les emplois de l'industrie verte, sur les emplois verts. Et le titre, le commentaire de la presse, c'est « Ce sont les sales boulots d'aujourd'hui et probablement les sales boulots de demain ». C'est-à-dire, c'est les plus pénibles, c'est les plus exposés à la toxicité, c'est les plus précaires, c'est les plus mal payés. Bon, voilà, j'ai besoin d'en rajouter. Je trouve ça extrêmement difficile à entendre, sachant l'importance qu'a cette transition verte. Donc, si on commence par en faire les emplois les pires, on est mal parti.
Futur salarié de la première ligne, comme on disait, rappelez-vous.
Voilà.
Vite, c'est un petit peu, en quelque sorte. Cyril Lachèvre, 30 secondes, c'est à vous.
Alors moi, j'ai eu énormément de mal. Hein. J'ai vraiment failli me faire coller. Bon, j'ai un coup de cœur un peu désolé pour Frédéric Merz, qui est le leader de la CDU, donc qui est maintenant dans l'opposition en Allemagne, qui annonce aujourd'hui qu'il serait candidat en 2025. Bon, ça, c'est pas vraiment un scoop. Hein. Contre Olaf Scholz. Et il a dit que l'une des premières choses qu'il ferait, ce serait de rétablir les centrales nucléaires qui sont encore en état. Donc CDU, Angela Merkel, c'est quand même incroyable, parce qu'effectivement, c'est Angela Merkel, son ancienne chef, qui a fermé les centrales nucléaires et mis l'Allemagne dans la situation où elle est. Donc même en Allemagne, ça va pas beaucoup mieux qu'en France au niveau politique.
Donc s'ils gagnent volte-face sur le nucléaire en Allemagne.
Voilà, donc ils sont eux aussi un peu perdus.
Il y aura peut-être un semblant de cohésion énergétique en Europe demain, si ça se fait.
Ça, ce serait une bonne nouvelle.
Évidemment. Julien Damon, 30 secondes, mon cher Julien, c'est à vous.
Petit coup de gueule, un ouvrage vient de sortir aujourd'hui pour critiquer le système des crèches privées en France. Et mon coup de gueule, c'est pas de soutenir la thèse de cet ouvrage, c'est d'observer qu'il y a une forme d'anticapitalisme général qui a eu lieu contre les EHPAD, qui a lieu désormais contre les entreprises privées de crèches, ce alors que, même s'il y a des défauts, ce sont des entreprises qui, pour la plupart, participent au bien commun. Voilà ma position et voilà ma petite critique à l'égard de tous ces journalistes qui se prennent pour des justiciers.
Bien, avis aux amateurs.
Non, je fais pas de commentaire, mais la critique qui a été faite sur les EHPAD, elle était plutôt justifiée. Hein.
Non, elle était faite pour certains EHPAD. C'est une critique que tout le monde entend comme étant une critique à l'égard des entreprises privées. Les entreprises privées services publics.
De certaines d'entre elles.
Oui, bien sûr, encore mieux. Absolument, c'est certaines entreprises privées pour lesquelles il y a des problèmes, c'est pas l'ensemble de tous ces services.
Non, bien sûr.
D'accord.
Oui, bien sûr. On a encore besoin d'entreprises dans ce pays, je veux dire. Voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Allez, c'est sur cette note souriante, ce message d'optimisme de Benjamin. On a encore besoin d'entreprises que se termine cette émission. Merci.
On part à l'Olympia, là.
On part à tout le monde. Allez, Cyril ?
Non, j'ai raté le.
Mais c'est diffusé nulle part, c'est ça qui est frustrant.
Il reste des places à 2 euros, parce que c'est pas mal.
Je sais pas. Ben, il y en avait à 2 euros, mais elles sont parties vite, c'est comme le reste. Ça s'est vendu en 24 heures, comme des petits pains. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Julien Damon, prof à Sciences Po, Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13, Cyril Lachèvre, fondateur de l'agence Silence. Merci messieurs, 19h54, je vous redonne vite fait les grands titres de l'actu. La France, grande question, se dirige-t-elle vers de nouvelles hausses d'impôts pour redresser ses comptes? Le débat qui divise de plus en plus la classe politique. Vous avez des réunions qui devaient avoir lieu aujourd'hui entre Michel Barnier, des dirigeants du Bloc Renaissance, mais aussi des Républicains, des réunions qui ont été annulées, reportées, sine die. Sinon, on en parlait tout à l'heure après Matignon. Hier, les parlementaires Éric Coquerel et Charles de Courson ont débarqué ce midi, cette fois à Bercy, pour obtenir les fameuses lettres plafond du budget 2025. Ils en sont ressortis bredouille, comme hier, et cette fois, apparemment, ça n'a duré qu'une demi-heure. Et puis, une bonne nouvelle pour Google en Europe, c'est pas tous les jours, la justice européenne a annulé une amende d'1,9 milliard que Bruxelles lui avait infligée en 2019 pour abus de position dominante dans la pub en ligne. Bruxelles aura, cela dit, la possibilité de faire appel de cette fameuse décision. 19h56, Tech & Co, François Sorel dans un instant en direct. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h, pour nouvelles aventures. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.